With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Bonjour, bonsoir, bon après-midi à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de Daron, le podcast où je donne chaque premier et troisième lundi de chaque mois la parole à un père pour parler de sa paternité. Je suis Fabrice Florent, je suis le fondateur de Mademoiselle, que j'ai aujourd'hui cédé et quitté après 15 ans de bons et loyaux services. Je suis aussi l'hôte de deux autres podcasts, Histoire de Succès, où j'interview des personnalités inspirées et inspirantes, et Histoire de Mec, où j'interview des mecs à propos de leur masculinité. Cette semaine, je reçois Cédric, plus connu sur les réseaux sous le pseudo de Papatriarca. Tout comme Tristan que j'ai reçu début janvier, j'ai rencontré Cédric par l'intermédiaire de la Tribune sur le congé paternité. Cédric nous raconte comment il en est venu à devenir papa, comment il a attendu sa femme qui est en pleine étude de médecine pour finir par avoir leur fille il y a 2 ans et demi. Cédric nous explique aussi comment il a lancé ce podcast et ce compte Insta Papatriarca, qui est militant engagé comme il le dit lui-même. Enfin, il vous livre plein de conseils tirés de son expérience de daron dans cet épisode un peu plus long qu'habituellement, mais très passionnant. Avant de vous laisser en compagnie de Cédric, je voudrais vous inviter à venir mettre 5 étoiles et une bonne note sur Apple Podcast. Ça aiderait vraiment Histoire de Daron à gagner en visibilité. Vous pouvez faire comme Sylvain Ferré, par exemple, qui a posté le 9 janvier 2021. Merci pour ce podcast qui me fait un bien fou et qui m'aide à relativiser en tant que père d'une petite fille de 3 ans. Un grand merci à toi Sylvain, et n'hésitez pas à faire comme Sylvain et à venir poster un petit commentaire, ça m'aidera grandement. Mais bon là ça va maintenant, j'ai assez parlé, je vous laisse en compagnie de Cédric. On est avec Cédric, salut Cédric.
Salut Fabrice.
Comment ça va?
Bah écoute, ça va bien et toi?
Ça va très bien, merci beaucoup. La vie est douce, bizarrement en cette année 2020 pour moi, mais c'est très bizarre d'être à rebours à ce point-là des gens. J'ai l'impression que le monde entier est en PLS et moi je suis là, mais moi ça se passe bien pour moi, pourquoi vous êtes comme ça? Oui, c'est vrai, la pandémie, c'est vrai. Ouais. Pour situer un petit peu comment on s'est rencontrés, moi je t'ai rencontré avec Tristan, que j'ai interviewé là il y a quelques semaines au sein de ce fameux collectif qui a œuvré pour le congé paternité, où je pense que c'était la première fois où des mecs prenaient la parole pour parler du congé paternité, parce que jusque-là, en fait, c'était plutôt une affaire de femmes, en fait, ce qui est dramatique, où c'était plutôt des femmes qui prenaient la parole, qui militaient pour le fait que les mecs aient plus de congé paternité. Et on a fait connaissance par là, et j'ai un peu découvert aussi ce que tu faisais, on va en parler un petit peu après. Mais avant ça, aujourd'hui tu vis à Bordeaux, c'est ça, avec ta petite famille?
Je vis juste à côté de Bordeaux avec ma chère et tendre et notre fille de 2 ans et demi.
J'aimerais bien savoir d'où vient toi ton envie d'enfant.
Alors mon envie d'enfant, en toute sincérité, maintenant que j'ai un petit peu exploré le sujet, je dirais que j'ai toujours pensé que j'aurais des enfants parce que c'est la norme en fait, et que j'ai éduqué, une partie de mon éducation fait qu'on m'a appris à bien me mouler dans la norme. Et en fait, je m'étais pas trop posé la question. Dans la vie, il faut avoir des enfants, si tu veux. Et en fait, c'est que très récemment que je me suis aperçu de ça, que c'était que dans ma vie, j'ai jamais pensé que je n'aurais pas d'enfance, tu vois. Hormis problèmes biologiques et physiologiques, mais voilà, pour moi, c'était la norme en fait d'avoir une femme et de faire des enfants. Donc tu vois, c'est très très hétéronormé, tout est bien calé dans le moule. Et puis en fait, ça c'était avant, jusqu'à mes 28 ans. À 28 ans, donc j'en ai 37 aujourd'hui. À 28 ans, j'ai vraiment eu un truc où j'ai eu une voilà, enfin j'avais envie d'avoir un enfant. J'avais envie d'avoir un enfant, ça m'a pris, j'avais envie de transmettre principalement. J'avais envie, j'ai vraiment eu cette envie d'enfant. Aussi parce que j'étais convaincu que j'avais trouvé la personne avec qui je voulais faire un enfant. Et ça, déjà, je pense que c'est un bon déclencheur.
C'est important de trouver quelqu'un avec qui faire un enfant.
tu vois, avec qui tu sens que ça peut matcher vraiment en termes d'évolution. Mais c'était pas le bon moment pour elle, donc ça a duré 7 ans, hein, cette attente quand même.
Ah, donc, c'est, vous étiez dans cette configuration où c'était toi en tant que père, futur papa en tout cas,
ouais.
qui avait envie avant, avant la maman.
Ah ouais, moi j'étais vraiment en mode, en fait, si moi je partais du principe que il y a jamais de bon moment pour faire un enfant, de toute façon. Il y aura toujours des problématiques, c'est est-ce qu'on a envie maintenant ou pas. Ma compagne, elle était plus dans une démarche de, attends, elle était étudiante à ce moment-là aussi, elle était étudiante en médecine, en dentaire. Elle était plus dans une démarche de attends, moi je me sens pas de faire et maman et mes études, donc voilà. Et en fait, une fois qu'elle a eu fini ses études, qu'elle a monté son cabinet, on s'est mis au boulot quoi.
Il te vient d'où ? Est-ce que en dehors du fait d'avoir effectivement trouvé une compagne avec qui tu sentais que ça pouvait matcher, il te vient d'où aussi ce déclic ?
Ben, je pense que. Tu vois, en y réfléchissant, moi, mon métier, ça a toujours été d'accompagner l'humain. Tu vois, j'ai été manager, comme on dit, dans l'entreprise, même si c'est pas, enfin, il y a beaucoup de choses derrière, donc c'est un mot qui est quand même très pollué. Mais moi, ça a toujours été d'accompagner l'humain, que ce soit dans le milieu professionnel, dans le milieu du handball aussi, que ce soit dans le milieu associatif. Voilà, j'ai toujours accompagné l'humain. Et en fait, si tu veux. Il y a vraiment quelque chose qui m'a poussé à me dire un enfant, c'est ça l'accompagnement je dirais pas ultime si tu veux, mais c'est vraiment le projet d'une vie quoi. C'est accompagner un enfant, l'amener à devenir un futur adulte, c'est vraiment un projet qui me portait et ça fait partie de mon déclic quoi. Après, il y a vraiment un truc que je n'explique pas hein, très clairement hein. Enfin bah il y a un truc à 28 ans, ça m'est tombé dessus. Il y a quelque chose que je n'explique pas. Je l'ai pas senti ni dans mes couilles ni dans mon cœur ou quoi, mais j'ai eu un désir d'enfant vraiment. C'était.
Il n'y a pas eu un moment un déclencheur, un film ou un livre que tu aurais lu ou une discussion.
Même pas. Tu vois, c'est il n'y a pas eu genre. Souvent j'entends des histoires de j'ai vu ma cousine avec son bébé dans les bras et j'ai su. Non moi que dalle hein. C'était. Enfin franchement à l'époque. Je faisais beaucoup la fête, je fumais des pétards, j'étais pas spécialement le papa modèle quoi. Et c'est juste, ça m'a pris là comme ça. C'était et on avait même pas d'amis qui faisaient des enfants à côté de nous. Hein. C'était, ça m'a juste pris. J'avais, okay. C'est arrivé comme ça quoi.
Et il y a pas un truc de ton rapport à l'éducation ou peut-être tu sais t'avais été justement dans une éducation comme tu disais au tout début très normée tu vois, ouais. Et que d'un coup d'un seul en grandissant aussi, enfin en vieillissant, tu te rends compte que bah tu commences à prendre du recul sur ta propre éducation et tu te dis bah en fait maybe ce truc là qui était que j'avais intégré de façon un peu automatique, j'ai décidé de taffer un peu dessus. Non,
bah à cet âge là j'étais pas encore alors déjà à cet âge là j'avais pas connu de thérapie et à cet âge là j'avais déjà compris que j'avais une vision différente de l'accompagnement de l'humain par rapport à ce qui était proposé généralement dans la société. Mais je pensais quand même très sincèrement que voilà, l'éducation, le rôle du père, c'était l'autorité, qu'une claque ça avait jamais tué personne, que les fessées ça peut être nécessaire. J'étais totalement là. Pour moi, Super Nanny c'était la référence. Tu veux. Je regardais pas d'ailleurs Super Nanny à ce moment-là. Et par contre, il y avait en effet, si tu veux, maintenant avec le recul, je suis capable de te dire que en effet, dans ce désir, il y avait aussi la volonté de m'émanciper de l'éducation que j'avais reçue parce que j'y voyais beaucoup de défauts et que je voulais faire mieux, en fait. Je voulais apporter quelque chose de meilleur à un être humain.
T'as reçu une éducation autoritaire ?
J'ai reçu une éducation dans un schéma, somme toute, assez classique en France avec... bon, clairement, dans une famille où on est dans du sexisme ordinaire et du racisme ordinaire à la française, enfin de tous les ismes ordinaires qu'on connaît, hein. Tu vois, voilà, c'est, mais vraiment ouais. dans
t'as
les.
T'as 37 ans. On a grandi avec Michel Leeb, quoi. Tu vois, à la
exactement.
Télé.
Exactement. On a grandi avec Michel Leeb. On a grandi avec le Club Dorothée qui disait que les Africains allaient la manger, les Africains cannibales allaient la manger avec des blackface qui tournaient autour d'elle. Non, mais c'était. On a grandi dans ces clichés-là, quoi, tu vois. Donc, fallait aller lutter contre. Et donc, voilà. Donc, bon, j'ai grandi là-dedans. Et bien sûr, avec de la violence éducative, que moi je trouve assez classique, mais parce que c'est mon point de vue, avec un schéma aussi tout à fait classique, c'est-à-dire avec une mère qui est aimante et qui est dans le câlin, qui est dans du maternage, et un père qui est dans la distance, qui est dans l'autorité, qui est dans la violence, dès qu'il y a opposition, donc des gifles, des fessées, de l'humiliation, beaucoup d'humiliation. Et aussi, on a connu le Martinet avec ma sœur.
Ouais, moi aussi, je suis team Martinet.
Voilà, dont on avait la bonne idée de couper les lattes. Et
aussi.
Voilà. Et pour le coup, on avait pris un coup de bâton de Martinet parce que, ben voilà, fallait.
Avec mon frangin, nous, on les enlevait une à la fois, tu vois, en se disant que
c'est malin,
comme ça,
c'est
un peu sneaky, tu vois.
Donc ouais, j'ai connu Martinet, voilà, c'était et puis de la violence à tous les niveaux, quoi. Quand ma grand-mère nous gardait, on avait de la violence. À l'école, il y avait de la violence. Je me rappelle vraiment de cette règle où on te tapait les, tu sais, on te mettait les mains comme ça avec les doigts serrés, et puis on venait te taper avec la règle dessus, soit en bois, soit en métal quand t'avais vraiment été pas sage. Bon, les gifles, c'était à tire à l'arigot, hein. Belle expression de Dieu, ça, tient à tire à l'arigot. Et puis, je me rappelle aussi, tu sais, les petits cheveux que t'as sur les pattes, là, on nous les tirait comme ça, et je me rappelle très bien d'un moment en CM1 où un compagnon de classe qui s'appelle Loïc, je ne te dirai pas le nom de famille pour rester dans l'anonymat.
Salut Loïc, si tu nous écoutes.
Salut Loïc. Le chat, on l'appelait à l'époque. Donc Loïc, si tu tombes là-dessus. Et en fait, il s'était fait soulever de terre par les petits cheveux, tu vois. Et c'était... Enfin, et il pleurait, c'était horrible. Et je me rappelle aussi de ces mécanismes. Ça, par contre, tu vois, c'est un truc qui m'a marqué depuis tout petit. Je me rappelle des mécanismes où quand je racontais ça à mes parents, c'était vraiment ok, c'est violent, mais qu'est-ce qu'il a fait pour mériter ça? Et ce mécanisme là de toute ma vie, aussi loin que je m'en rappelle, il m'a toujours interpellé, quoi. J'ai pas toujours mis les bons mots dessus, mais c'est quelque chose qui m'a toujours interpellé. C'est, mais comment ça se fait qu'on se dise qu'une victime a mérité un traitement? Tu vois? Bon, après, c'est une question qui nous amène loin, mais voilà. Donc, ouais. J'ai grandi dans cette éducation-là. Et il y a des choses plutôt chouettes, hein, que j'ai reçues. J'ai appris... Sur moi, j'ai reçu, et je pense que c'est peut-être générationnel, tu vas me dire si c'est le cas aussi pour toi, mais j'ai grandi dans cette dichotomie où, d'un côté, on veut te développer un esprit critique, on veut développer une pensée réfléchie, on veut que tu sois un être réfléchi, et d'un autre côté, on veut que tu obéisses sans réfléchir. Et ça marchait pas, quoi. Ça marchait pas. Et je comprenais pas, si tu veux, comment est-ce que d'un côté on me demandait de développer un esprit critique. Enfin, si tu veux, mon père, il était capable de me dire, de me faire lire des textes, de s'intéresser aux études de textes que je pouvais faire. Voilà. Et surtout que j'ai vraiment adoré réfléchir à la pensée et tout ça très très tôt. Et avec des jeux d'intelligence, de logique. Et puis, par contre, dès que je disais, mais attends. Mais papa, mais très tôt, hein, quand il prenait des décisions et que je disais, mais c'est pas logique, ça manque de bon sens, tu vois. Pam, tu t'en prenais une, quoi. Bah non. Non.
C'est tellement compliqué, tu vois. Là, je me rends compte maintenant, moi, j'ai deux filles qui ont 14 et 12, donc qui commencent vraiment à développer leur esprit critique depuis quelques années maintenant, mais maintenant, elles l'affirment en plus. Il y a vraiment ce truc où tu te dis, putain, en fait, c'est génial, et en même temps, c'est tellement compliqué. Je préférerais que ce soit plus simple. En fait, c'est comme ça. Tu vois, c'est pas autrement. Ah non, là, je suis obligé d'argumenter et d'aller dans mon. Ok, bon, bah, je vais faire en sorte de faire le taf. Mais tu vois, c'est tellement plus simple en tant que parent, de juste dire, c'est comme ça, c'est pas autrement, parce que je suis adulte, et puis voilà, que je vois très bien pourquoi nos parents ont fait ça. Mais parce qu'eux-mêmes ont reçu, je pense, aussi cette éducation, tu vois, qui
était. Mais après, ça prend, tu vois, maintenant, avec les connaissances que j'ai, ça prend racine loin, très loin, mais ça prend racine à la sédentarisation au niveau du néolithique, si tu veux, à peu près. Donc oui, ces comportements-là, ils sont, ça a été une réponse à des comportements qui prennent leur racine très très loin. On a aussi eu, comment dire, on a aussi eu différents courants, hein, dans la pensée occidentale, et notamment la pensée française, que ce soit au niveau des Lumières. Il fut un temps où l'enfant était était un être de lumière, et puis il fut un temps où l'enfant était un être qui naissait avec le péché originel et qu'il fallait laver, voilà, l'enfant et comme ça. Mais tout ça, enfin, au fil des siècles et des millénaires, il y a tellement de choses qui sont superposées là-dessus que c'est compliqué. Et puis tout ça pour en arriver à un code civil de notre cher et tendre ami Napoléon, qui nous pond un droit de correction, qui est une notion super intéressante d'ailleurs, parce qu'on te dit que frapper tes enfants, c'est un droit. Tu vois ?
Ouais, et ce qui nous amène aujourd'hui à... Bah, quand tu penses que la fessée, jamais personne n'en est mort, quoi, tu vois ?
Mais exactement. Ce qui est faux, d'ailleurs,
oui, par ailleurs, bien sûr.
Ce qui est faux, il y a des enfants qui meurent sous les coups de leurs parents. Ça, c'est quelque chose qu'il faut pas oublier. Et il faut... Enfin, t'as des stats hein, qui existent. Hein. 75% des cas de maltraitance, en tout cas des décès, 75% des décès pour maltraitance surviennent dans le cadre d'une correction éducative, d'une violence dite éducative. C'est-à-dire que le parent faisait une correction, entre guillemets, tout ça, je mets des gros guillemets autour, hein, à son enfant dans le but de l'éduquer. C'est une stat qui est quand même... bah, elle date de 2016, mais elle est intéressante quand même, si tu veux. C'est-à-dire qu'à la base, tu mets juste une gifle à ton gamin, juste une gifle, hein, tu vois, je mets aussi des gros guillemets, mais en fait, tu lui as dévissé la tête, quoi. Parce que ton gamin, à ce moment-là, il a 18 mois et que sa nuque est pas formée et que quelques temps après, il va décéder. C'est terrible. Et en France, faut pas oublier qu'on en est encore là. Mais tout ça pour dire que on nous a dit que c'était un droit. Et tout à coup, en 2019, on nous dit qu'on n'a plus le droit. Tu vois, c'est intéressant aussi ce positionnement. C'est que le gouvernement a tellement été mauvais dans sa communication qu'au lieu de dire aux gens maintenant, les enfants ont le droit à une éducation sans violence. On a dit aux parents, vous n'avez plus le droit de mettre la fessée, même ceci, cela. Ah, t'imagines, c'est quand même... Enfin, moi, tu commences une phrase en me disant, tu n'as pas le droit de... Tout ce que tu vas dire derrière, tu n'as plus le droit de... Tout ce que tu vas dire derrière, j'ai trouvé ça dégueulasse.
Ouais, c'est sûr. Et ceci dit, pour l'avoir pas mal suivi, alors côté enfant, là, pour le coup, parce que sur Mademoiselle, on a beaucoup parlé de la fessée depuis... je pense 10 ans, tu vois. En tant qu'enfant, là, pour le coup, le nombre d'enfants qui partent du principe que, bah, en fait, comme toi, tu as reçu des fessées, c'est impossible qu'en ayant reçu des fessées, tu aies reçu une mauvaise éducation de la part de tes parents qui t'aiment en plus, tu vois. Donc, forcément, en fait, il y a une sorte de dissonance cognitive folle, tu vois, en fait, c'est pas possible que mes parents m'aient violenté.
Mais c'est ça.
Et pourtant.
Mais en fait, tu crées des situations qui sont dingues et qui sont par ailleurs socialement dingues. Tu crées d'ailleurs des sociétés qui sont violentes. Si tu veux, c'est déjà tu associes l'amour à la violence. C'est-à-dire que tu crées un schéma. Bon, je vais essayer de pas être trop technique, mais tu crées un schéma de lien d'attachement qui fait que la personne va se reconnaître dans le fait que si je suis violent. Tu vois, le fameux « c'est pour ton bien ». Je t'ai mis une... C'est pour ton bien parce que je t'aime. Mais comment est-ce que tu veux qu'ensuite, en devenant adulte, tu ne recherches pas ces schémas-là ? Soit à les reproduire, soit à les subir. Tu vois, et là-dessus, il y a un consensus sur toute la communauté, en psycho, tout ce que tu veux. C'est le lien d'attachement, il n'y a pas de débat là-dessus. Donc tu crées des schémas comme ça, et ce qui est aussi problématique, c'est que tu crées cette fameuse opportunité de laisser penser que la victime mérite ce qu'elle a reçu. Et là-dessus, ça t'amène à quoi ? Ça t'amène à une jeune femme qui a subi une agression sexuelle de la part d'un homme et qui va
porter plainte. Dupe.
Exactement, et qui va porter plainte au commissariat. Et une des premières questions qu'on va lui poser, c'est « Ok, mais vous portiez quoi ?» Ça t'amène à ça, c'est-à-dire qu'au lieu de se questionner, enfin, au lieu de simplement se dire la violence ne devrait pas être là, on commence par se questionner sur la victime. C'est quand même dramatique, si tu veux. Et ça, c'est un exemple parmi des milliers d'autres. Moi, si tu veux, c'est les violences dites éducatives ordinaires. Pour moi, c'est vraiment un terreau de toutes les violences, et c'est pas pour rien que dans les sociétés qui les ont, soit pratiquement éradiqué, soit pas développé, on est aussi tout un tas d'éléments paritaires et inclusifs qui coulent de source, quoi.
Je me permets une petite pause dans ce podcast, parce qu'après tout c'est le mien, pour vous demander, si ce n'est pas encore fait, de vous abonner au podcast directement depuis votre appli de podcast préférée, ou sur Spotify ou sur Deezer. Vous pouvez aussi vous abonner à ma newsletter, je vous envoie régulièrement mes kiffs personnels du moment, des reco-séries, des reco-cinés, des reco-livres, mais aussi, et bien sûr, mes dernières productions. C'est le meilleur moyen de ne rater aucun épisode. Je vous mets tous les liens dans les notes de cet épisode justement. Allez, merci beaucoup et retour à l'interview.
On a digressé longuement, Cédric.
Oui,
mais
on a digressé.
C'était hyper intéressant parce qu'on est parti de ton éducation et qui ressemble très fort à l'éducation que j'ai reçue aussi, tu vois. Donc ça me parle pas mal. On s'est un peu éloigné de ton histoire à toi, mais est-ce que pour revenir à on va revenir après au parce que c'est un peu c'est l'un de tes combats en fait aujourd'hui que t'as décidé de mener notamment sur les réseaux à travers un podcast etc. On va revenir dessus un peu après. Mais pour revenir un petit peu à ton envie d'enfant, une fois que ta compagne avait terminé ses études, vous y êtes mis, c'est ça?
Alors elle a terminé ses études. Moi, à ce moment-là, je travaillais dans une grande entreprise de restauration rapide, qui est une amie de Mickey. Et oui, c'est un canard, c'est Donald. Et tu pourras la couper, celle-là. Je suis sûr, il va la laisser. Et tout ça pour dire, ouais, j'ai travaillé là-dedans. Et en fait, entre-temps, moi, j'ai quitté cet emploi parce que j'avais fait le tour de ce que ça allait me proposer. J'ai passé 11 années très intéressantes là-dedans, dont 10 en travail en 24-24. Et j'ai appris beaucoup sur l'être humain, je pense, dans ces périodes-là. Et c'était le moment d'arrêter. Et donc, il y avait cet équilibre-là que je voulais retrouver, passer plus de temps avec ma compagne. J'avais un projet qui finalement n'a pas vu le jour. Et donc, pour le coup, je m'étais retrouvé au chômage, en fait, au moment où elle ouvrait son cabinet. Et donc, j'ai pu l'aider à monter son cabinet. Et puis ensuite, j'ai trouvé elle a monté son cabinet. Moi, j'ai retrouvé un emploi. Donc, dans une entreprise de produits culturels et techniques, un grand groupe français. Et j'ai adoré ça parce que je vendais des livres et des CD, des films. Enfin voilà, c'était passionnant. Et puis en fait, quand tout ça s'est stabilisé, on s'est dit bon ben allez, on va se mettre en mode bébé. Donc là, je travaillais à Bordeaux Centre. J'habitais à Bordeaux Centre par ailleurs. Et puis entre temps, ben, professionnellement, j'ai été muté à Poitiers. Tout en habitant à Bordeaux, bien sûr. Donc, voilà. Donc là, on est...
Ça fait une trotte, non, Bordeaux-Poitiers?
Ça fait 200-250 bornes, je crois, un truc comme ça. Mais en fait, entre-temps, t'avais la ligne à grande vitesse qui était arrivée. Et donc là, on est en 2016 à peu près quand la décision se prend. Nous, on a déménagé à côté de Bordeaux dans une maison à la campagne. Et là, en fait, c'est à ce moment-là que ma compagne s'est dit « Bon, on a la maison, on a le job... » On a les chiens. Ouais, il fallait des chiens. Voilà. Elle avait visiblement coché toutes ces petites cases. C'est bon, je peux faire un bébé. Sauf que moi, pour le coup, j'étais parti sur Poitiers pour le travail. Et après, cela dit, donc, comme je disais, avec la ligne TGV à grande vitesse, j'étais à une heure. Je mettais une heure. Ouais, 1h45 pour de chez moi à mon travail. Donc à Poitiers, sachant que à Poitiers c'est ce qu'on appelle un petit magasin là où j'étais, c'était un petit magasin, et à Bordeaux c'était un gros magasin avec un très très gros rythme. Et ce qui était d'ailleurs assez comique pour ma compagne, c'est que en travaillant à Poitiers, je partais à la même heure le matin, mais je rentrais à la même heure le soir. Tu vois, par contre, j'étais beaucoup plus libre parce que quand tu te tapes 1h45 de trajet dont du train, bah t'as le temps de finir de traiter tes mails, de finir de traiter tes infos, et puis quand t'as tout fait, t'as le temps de lire. D'ailleurs, c'est ce qui fait que quand la grossesse est arrivée, j'ai lu et j'ai vu énormément de choses. Et donc, pour le coup, voilà, on se dit, allez, on met en place le bébé. Bon, je te passe les personnes qui ont pu nous dire, mais mon Dieu, mais comment est-ce que vous osez faire un enfant dans ces conditions? Tu seras jamais là, Cédric, blablabla, blablabla. Oui, bien sûr, on a conscience que c'est pas l'idéal, mais à un moment, si tu veux, moi, je peux pas défendre depuis 7 ans qu'il n'y a pas de situation idéale et tout à coup dire, on va attendre que je sois de retour sur Bordeaux pour faire un enfant. Donc, on fait un enfant. Énorme coup de bol, premier essai, il est transformé. Ouais.
Bravo.
Ouais, franchement, coup de bol, parce qu'on a eu des amis qui n'ont pas été dans cette configuration-là, et c'est clairement pas des périodes faciles, et c'est pas une période qu'on avait envie de vivre, et on était vraiment très contents. Donc, grossesse qui arrive, je me rappelle très bien de l'annonce, j'étais en haut de l'escalier, je partais travailler. Enfin, je me préparais pour partir travailler, puis ma compagne, avec un air un peu penaud comme ça, en bas de l'escalier, me dit « Chérie, je crois que je suis enceinte. » Et moi qui saute de joie, qui part sur mon petit nuage, et qui part prendre mon train, par ailleurs. Et donc là, voilà. Donc là, la réflexion sur « Ok, qu'est-ce qu'il faut mettre en place ?» Donc bien sûr, bah, tu commences à lire, t'achètes des livres très pratiques, hein, au départ, tu vois, en bon mec, très pragmatique. Ok, c'est quoi? Je voulais une feuille de route, moi, tu vois, je voulais un truc. Parce que j'étais encore dans cette configuration-là, tu vois, je voulais manager la grossesse comme tu manages une entreprise. Ce qui est pas en droit peut être possible. En termes d'organisation des rendez-vous, de te fixer des deadlines pour des trucs. Ce qui, par autre endroit, est juste pas possible parce qu'il y a des tas de choses que tu ne maîtrises pas.
Mais c'est une façon de récupérer une forme de... Je pense que de la part de plein de pères, de faire ça, c'est une façon de récupérer la maîtrise d'un truc que tu... Mmh. Bah, que tu vis pas, en plus, tu vois.
Et de s'investir, si tu veux. Mmh. Et de s'investir, c'est ça. C'est... Alors ça, tu vois, si je devais retenir un truc, c'est que c'est ça qui est intéressant, c'est faire les choses un peu à sa manière, entre guillemets. C'est aussi une manière de s'investir. Et c'est une manière justement d'aller chercher la compréhension de l'autre, tu vois. C'est-à-dire que moi, comme je prenais des décisions parce que je voulais être décisionnaire de certaines choses, tu vois, sur cette grossesse, ma compagne des fois elle me disait bah non. Et puis à un moment, tu vois, c'est moi, enfin, t'es gentil, mais c'est moi qui vis la grossesse. Donc, tu vois, tu construis tes décisions différemment, mais tu restes aussi, tu vois, tu restes acteur du sujet et de la décision. Et donc c'est comme ça que il y a des choses que j'ai décidées. Elle avait fait le premier rendez-vous de préparation à la grossesse seule à l'hôpital. Elle avait pas du tout aimé. Moi j'avais fait le deuxième, j'avais pas du tout aimé. C'était très médicalisé. Enfin, on nous parlait que des choses terribles qui pouvaient se produire. Et ouais, en gros, on justifiait la médicalisation de l'accouchement. Il n'y avait pas besoin de le justifier. On avait bien compris. Mais en fait, t'apprenais pas grand-chose. Et puis on fait nos rendez-vous ensuite chez une sage-femme libérale qui s'appelle Isabelle Députier, qui est géniale, parce que elle est spécialisée en accouchement à domicile, et pour le coup, l'implication du père étant un point essentiel du projet.
Une sine qua non, limite. Ouais.
Voilà, pour que ça se passe bien, ben en fait, elle t'implique, quoi. Elle t'implique, et en fait, elle a une façon de raconter. Elle pourrait être conteuse, cette femme. Elle te plonge dans le récit, tu vois. Et elle te donne envie. Et pour te dire à quel point ça nous a fait évoluer, c'est que ma compagne qui voulait une grossesse sans douleur, enfin, un accouchement sans douleur de A à Z, elle était en tout cas prête à la tenter sans péridurale, et elle se posait la question du projet à domicile, tu vois. Donc, ça a vraiment, on est vraiment parti d'un extrême pour aller sur une réflexion plus physiologique, ce qui n'enlève en rien les gens qui veulent une péri, et il y a pas de débat. C'est juste pour montrer que voilà, on était vraiment dans un cheminement, comprendre qu'on partait d'un endroit et qu'on allait à un autre. Et à ce moment-là, moi, si tu veux, j'étais dans des lectures, j'avais lu Guéguin, j'avais lu aussi Laurence Dudek, j'avais lu des livres qui parlaient de discipline positive, mais j'étais pas encore arrivé au déclic, quoi. Tu vois, j'étais encore en train de me dire ok, je veux que, donc je savais que c'était une fille à ce moment-là, ok, je veux que ma fille elle soit libre, qu'elle ait d'éducation, mais à un moment, faut pas déconner, quoi. Tu vois, à un moment, il y a quand même des limites, hein, et des limites, si elle les comprend pas, va bien falloir qu'elle les comprenne. Et puis dans ce cas-là, s'il faut aller jusqu'à la gifle, et ben moi je suis l'homme, mais vraiment, hein. Moi je suis l'homme, ben je serai celui qui ira jusqu'à la gifle s'il faut. Et c'est là où tu te remets en question, parce que là par contre j'avais déjà suivi ma thérapie, si tu veux. J'avais déjà eu ma thérapie que j'ai eu vers 30-31 ans.
Et comment t'en es venu à sans vouloir rentrer dans les détails perso, mais comment t'en es venu à te lancer dans une thérapie? C'était une volonté de ta part?
Non. En fait, c'était un événement personnel entre ma compagne et moi qui a fait que soit on partait en thérapie, soit ben on serait plus ensemble, je pense.
Et vous avez une thérapie de couple alors, c'est ça ?
Alors, on a fait et une thérapie de couple et une thérapie chacun de son côté. Mmh. Parce que j'avais clairement des choses à régler et en fait, il s'est avéré que bon, petite parenthèse thérapie, que je pensais pas travailler ce que j'ai travaillé avec ma thérapeute, enfin avec psychothérapeute, et que j'ai eu la chance, l'énorme chance, je pense, d'avoir été conseillé par celle qui était notre thérapeute de couple et qui nous correspondait, et donc et d'avoir connu une personne qui n'a pas été formée en France par ailleurs, enfin pas uniquement en France. Et tu vois, par exemple, la thérapie de l'attachement, le lien de l'attachement, ce sont des choses qu'elle maîtrisait parfaitement. Et en fait, sans le savoir à cette époque-là, j'ai suivi cette thérapie d'attachement intérieur et c'était extrêmement ressourçant. Et si tu veux, en fait, il y a un moment, donc, pour revenir au questionnement, il y a un moment, si tu veux, où je me dis, où en fait, une des choses que je fais, si tu veux, quand j'ai des idées comme ça, c'est que je les dis à voix haute. Et c'est pas une astuce, ça, c'est moi, je fonctionne comme ça. Et en fait, en m'entendant dire, non mais à un moment, si ma petite fait des conneries, va bien falloir qu'elle comprenne. Et s'il faut, je lui mettrai une gifle. Si tu veux, ça marchait pas en fait. Je répétais quelque chose. Je jouais un rôle. C'était pas moi. C'était pas ce que je ressentais. Et il me manquait quelque chose en fait. Il me manquait quelque chose pour avancer. C'est que il me manquait le fait de voir qu'une éducation sans violence était possible. Tu vois, c'est-à-dire j'avais envie d'y croire, mais je n'y arrivais pas quoi. J'avais tous les éléments pour y croire, mais je n'y arrivais pas. Et vient le moment. Alors je sais plus si c'est. Il me semble qu'on l'a regardé quand je suis redescendu de Poitiers au mois de juin, fin juin pour venir aider ma compagne qui allait accoucher. Et on a regardé, même qu'on a imbattable, le documentaire de Marion Quercq.
Attends, tu peux redire le nom ?
Même qu'on est imbattable.
Même qu'on est imbattable, ok, d'accord.
Même qu'on est avec né, s'écrivant du verbe naître.
Ok, j'ai.
Tu vois, petit jeu de mots, petit calembour.
Je vous mettrai les références dans les notes du podcast.
Mais qui a plein de sens, en fait. Mm. Et dans ce documentaire, tout à coup, c'est la clé qui me manquait, tu vois. C'est la clé qui me manquait pour me dire, putain, c'est bon, c'est possible. Parce qu'en fait, ce documentaire, sans le spoiler, il traite d'un schéma très simple. On part de 1979 en Suède. La loi contre les violences dites éducatives ordinaires est adoptée, avec en plus un énorme dispositif d'État pour lutter contre. Et donc 1979. Et on se retrouve 40 ans après, dans une société où ces enfants, qu'on proclamait en 79-80 comme des enfants rois, la tyrannie de l'enfant roi suédois allait arriver, ces enfants ont grandi et ont eu eux-mêmes des enfants. Et si on allait voir qu'est-ce que ça a donné. Et alors attention, le système suédois n'est pas un système parfait. Là, je parle juste des violences dites éducatives ordinaires. Et sur ce sujet-là, pour le coup, en fait, ben, c'est OK, c'est possible. Quoi. OK, c'est possible. OK, on peut le faire. OK, je vois des enfants qui grandissent sans ces violences-là et qui, pour autant, sont dans le respect d'un cadre, sont dans le respect de leurs parents, sont dans le respect de la société. Et je me dis, OK, c'est bon, c'est possible. Et là, en fait, c'est vraiment le déclic, quoi. C'est le déclic total et c'est bon, je me dis que c'est possible. Tout en prenant du recul déjà sur ce que je pouvais, moi, apporter ou pas, si tu veux. C'est-à-dire que... il y a d'une part ce qu'on tend à vouloir être, et il y a d'une autre part ce qui nous est accessible. Et dès le départ, je me suis dit, bon, moi, il y a des choses que je pourrais faire ou pas faire. Donc, je commence à aller me renseigner sur les groupes anti-violence éducative ordinaire, parce que la loi, à ce moment-là, n'était pas passée. Et j'avoue que je vois des trucs qui m'ont un peu interpellé, quoi. Je voyais des gens qui disaient donner un surnom à son enfant. Là, je parle pas de l'appeler mocheté ou quoi. Le fait d'appeler ma fille ma chérie, ça aurait été ce que je fais régulièrement. C'était une VO, quoi, pour ça. Donc, violence éducative ordinaire. Moi, je ne voyais pas ça. Et surtout, je me disais, attends, on part d'une société où la loi n'était pas encore passée, hein, donc, je rappelle, et où on a des chiffres qui sont extrêmement alarmants sur les décès d'enfants, et on est en train de se prendre la tête de savoir si on doit appeler l'enfant ma chérie ou pas. Et moi, en fait, je toute cette partie-là un peu extrême, je l'ai mise de côté tout de suite, quoi. Je me suis concentré sur des éléments qui m'ont beaucoup plus interpellé, comme la violence physique, bien sûr, l'humiliation, et le fait d'éveiller la conscience de soi. Donc là-dessus, tu as le travail de Fanny Vella, dans son livre notamment, enfin ce qui est devenu un livre, Et si on changeait d'angle, aux éditions Allégraine, pour les références, qui m'a beaucoup interpellé parce que c'était vraiment un traité sur l'adultisme et ça m'a beaucoup aidé dans mon cheminement.
L'adultisme,
oui.
Je t'avoue.
Alors l'adultisme, en fait, c'est, pour le résumer, c'est ça concerne en fait toutes les pratiques qui consistent à infliger à un enfant des situations que tu n'infligerais jamais à un adulte. Par exemple, Fab, si tu viens manger à la maison, que je te fais un plat et puis que tu as mangé assez de pommes de terre, par exemple, et que tu dis « c'est bon, merci, il en reste 3-4 dans l'assiette, mais là, je suis au bout. Vraiment, merci, c'est vrai que tu m'as gavé, là. » Tu vois ? Eh ben, c'est comme... Est-ce que tu crois vraiment que j'irais te dire « Ben non, Fab. Non, il faut finir ton assiette. » Non, mais... Non. Mais tu n'auras... Non, oui, j'ai fait un gâteau. Oui, t'as envie d'en manger, mais tu n'auras pas de gâteau si tu n'as pas fini tes pommes de terre, Fabrice.
J'aimerais bien que tu me traites comme ça, ceci dit.
Tu vois ? C'est... On ne le ferait pas à un adulte.
Oui, bien sûr.
Parce que, voilà, on part du principe... Et en fait, on part du principe qu'un adulte a conscience qu'il a assez mangé, ce qui est aussi le cas d'un enfant, en fait. C'est juste qu'il a peut-être pas la même conscience que nous. Et en fait, voilà, t'arrives sur tout un tas d'éléments, mais je t'invite à aller, pour le coup, découvrir le travail de Fanny, qui est d'ailleurs celle, l'illustratrice qui a fait l'illustration de Papatriarcat.
OK.
Et ça, c'est le deuxième gros point de mon travail, enfin, de mon travail de remise en question. Et la troisième personne dont le travail m'a beaucoup aidé à ce moment-là aussi, c'est le travail de Virginie Maillard, de bougribouillon.fr. Parce que moi, j'aime bien les illustrations, en fait. Ça me parle. Les textes, c'est bien, les livres, tout ça, mais ça manque de... J'aime bien quand c'est associé à du visuel. Et pour le coup, son travail m'a beaucoup parlé sur plein de principes ensuite d'éducation qui me plaisaient. Et donc, voilà, on en arrive là où juste ce cheminement de construction en application dans la grossesse autant que je pouvais, parce que faut pas oublier que je travaillais donc à Poitiers en habitant à Bordeaux, et que c'était pas un schéma dingue. Et ce qui s'est mis en place aussi très rapidement, c'est mon souhait.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
De prendre un congé parental. Donc ça a été une négociation. J'avais la chance d'avoir un directeur, je vais le citer, qui s'appelle Thomas Bondou, qui est une personne formidable, qui comprenait parfaitement mon désir et mon souhait. J'avais la chance d'avoir une personne en charge des ressources humaines aussi. Et donc ça a pu se goupiller. Ce qui s'est passé, c'est que comme j'ai eu la chance d'avoir une fille qui est née en juillet, le 7 juillet, j'ai pu, si tu veux, bricoler avec mes vacances d'été, avec mes grandes vacances d'été. J'ai dû revenir les deux premières semaines d'août parce que ça passait pas au niveau du comité de direction du magasin. Donc on est dans le compromis, on est dans le vivre ensemble. Et ensuite, pendant 6 semaines, jusqu'à mi-octobre à peu près, j'étais en congé parental. Et si tu veux, ça a été vraiment la bonne idée, quoi. La bonne idée. Il y a plusieurs choses que j'ai mis en place. Ça a été le fait que 2 semaines avant le terme, il était prévu que quoi qu'il arrive, donc avec toute l'équipe du comité de direction, quoi qu'il arrive, je pouvais partir du magasin à n'importe quel moment, au cas où, tu vois. Donc, j'avais gardé une voiture sur Poitiers. Et d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé, puisque le 28 juin, suite à des pressions du milieu médical, ma compagne était vraiment pas bien en visite à la maternité. Et elle m'appelle, et trois heures après, j'arrive, et on se casse contre avis médical par ailleurs. Et donc, du 28 juin jusqu'au tout début août, je suis resté avec ma compagne et ma fille. Je suis retourné travailler 2 semaines, et ensuite, je suis resté jusqu'à mi-octobre. Et ça a été génial. Ça a été génial parce que ça a été du temps, ça a été de la disponibilité, ça a été de la découverte, ça a été, comment dire, il y a eu des moments où c'était pas forcément facile, parce que c'est vrai que quand tu vois le lien qui se crée entre une maman allaitante, et pas toi en fait. Des fois c'est difficile, et puis c'est là où pour le coup tu t'es content d'avoir vu le portage, t'es content d'être monté en compétence sur les bains. Ça aussi c'était un vrai truc, c'est que je suis resté dormir à la maternité les 3-4 jours où on y est resté. Alors c'était pas du tout un bon moment, je dormais sur un lit dégueulasse, un vieux lit à ressort, un truc pas du tout agréable. Il faisait minimum 28 dans la chambre la nuit. Ouais, on était en pleine canicule, c'était ouais, l'horreur. Et par contre, ce qui était chouette, c'est que ma compagne, en plus, qui avait subi une césarienne, elle pouvait pas se lever. Enfin, c'était assez douloureux pour elle de se lever. Donc la nuit, c'est moi qui faisais des tours avec la petite, avec le petit doigt dans la bouche, pour que ma compagne se repose. Mais c'était aussi un moment où je créais du lien. Je suis monté en compétence sur le nettoyage du cordon, sur le fait de donner le bain, sur changer les couches. Donc en fait, tu montes en compétence dans du care, tu vois, dans des actes de soins à l'enfant, ce qui n'est quelque chose que je n'avais jamais connu avant ça, en fait.
Mais c'était ta démarche à toi personnelle de dire « moi j'ai envie d'apprendre » ou tu avais le personnel qui t'a inclus dedans tout de suite aussi, parce que pour moi c'est un vrai sujet aussi, la façon dont le personnel, tu vois, intègre le papa d'entrée.
Alors en fait, il y a eu différentes choses, en toute transparence. Hein. Il y a eu le moment où j'étais très fatigué et où j'avais juste envie de dire « attends, je vais aller à la maison un peu là, je vais... » D'ailleurs, il y a un moment où je l'ai fait, parce que je profitais de la visite de grands-parents pour le faire, parce que j'avais besoin aussi, tu vois, d'une petite bulle d'air, ce qui est très égoïste, parce qu'elle, ma compagne, n'avait pas le choix de cette bulle d'air, tu vois. Mais d'un autre côté, partir 2 heures et m'occuper des chiens et prendre un peu l'air, ça m'a permis de revenir plus aguerri. Et au niveau du personnel, en fait, ce qui s'est passé, c'est que, si tu veux... On était dans une démarche... déjà, on avait un personnel qui était pas du tout excluant vis-à-vis du père. Pas volontairement, si tu veux. Tu vois qu'il y a des automatismes où elle s'adressait directement à la mère et où ma compagne disait demandez à lui, là. Et où il y a des fois où je disais demandez-moi à moi. Mais d'un autre côté, si tu veux, la naissance même de ma fille fait que tout de suite, il y a eu un moment où je suis resté tout seul avec elle. C'est-à-dire qu'en fait, ma fille est née par césarienne. On sort du bloc, je passe un petit quart d'heure en peau à peau avec elle dans la salle où on allait faire la première tétée. C'est extrêmement compliqué, la première tétée, ça dure 45 minutes. Ma compagne est en pleurs, elle est extrêmement fatiguée, elle a une tension extrêmement basse, elle a 8 de tension. Et d'ailleurs, c'est moi qui presse le sein pour faire sortir le colostrum. Pour le coup, c'est un moment qui est dingue pour moi, oui. qui est dingue. Génial, enfin voilà, c'est compliqué parce que d'un côté t'as ta femme qui est dans un sale état, d'un autre côté oui. t'as le bébé qui est là, toi en plus t'es en train de vivre une vague d'amour, enfin moi j'étais en mode endorphino ocytocino perché, si tu veux, et j'étais dans un autre monde, vraiment dans un autre monde, et puis là on me dit voilà, maintenant votre femme va se reposer, ça va durer une petite heure, une heure et demie, et vous allez dans la chambre où ensuite vous allez rester. Et en fait, tu te retrouves là. Tu vois, c'est marrant parce que quand je me remets en position et tout, et ça m'émeut beaucoup de repenser à ce moment-là. Pour écouter, je parle moins. Et je vois ce moment, si tu veux, où je suis là avec ma fille en peau à peau. Et on reste comme ça, on se regarde et ça dure. Attends, excuse-moi.
Prends le temps. Tu sais, ça part jamais. Moi, ça fait 14 piges et c'est toujours pareil.
Ah ouais, c'est ouais. Ce moment-là, si tu veux. Parce que c'est à ce moment-là où je me rends compte qu'elle est là, tu vois.
Ça y est, je suis papa. My God.
Ouais. Ouais, et surtout, il y a cet amour. Vraiment, j'avais jamais ressenti ça. J'avais jamais ressenti ça. Et je m'attendais pas à ressentir ça d'une manière aussi forte. Presque violente, hein, pour le coup. Et donc, on reste là, et ce qui devait durer une heure et demie dure 3 heures. Et pour te dire à quel point j'étais dans un moment suspendu, c'est que, il y a que au bout, genre, de 2h30 que je commence à me dire, mais attends, mais il manque quelqu'un quand même, là. Et où, pour le coup, j'interpelle une sage-femme qui me dit, non, mais votre compagne était vraiment très fatiguée, s'endormie, on la laisse se reposer au maximum. Au final, au bout de 3h15, elle revient. On fait installer le lit, et puis voilà. Mais si tu veux, il y a vraiment eu ce moment où, pour le coup, j'étais là, en fait. J'étais là, j'ai montré à tout le monde que j'étais là. C'est-à-dire, tout le personnel savait que le papa était là. J'ai exigé d'avoir un lit pour dormir dans la chambre, alors qu'au départ, c'était pas prévu. Voilà. Donc, je crois qu'aussi, tu passes des messages, si tu veux, par ton attitude, en expliquant que je suis là, j'ai pas l'intention de partir, et il va falloir composer avec moi, et je veux m'investir. Et c'est pour ça qu'en fait, globalement, très naturellement, pour à peu près tous les sujets, on me sollicitait, quoi. Et je dis à peu près tous parce que il y avait vraiment le sujet de l'allaitement où il y avait des questions de position, tu vois, où je regardais, mais où clairement on s'adressait pas à moi. Et heureusement, parce que c'est pas le sujet. Par contre, comme on a fait un peu le début de l'allaitement était un peu difficile. Comme on avait fait un peu de dalle, le dispositif dalle à l'allaitement, j'ai appris à le préparer, à le positionner. Voilà, tu vois, en fait, j'étais vraiment en auxiliaire. Et puis ensuite, tout ce qui était bain, changement de couche, nettoyage du cordon, tout ça, implication, j'ai pu monter en compétences tout de suite. Et donc, c'était super intéressant. Et tout de suite, il y a un lien qui s'est fait, quoi. Et donc, nous, on avait, pareil, on dormait dans la chambre avec la petite, avec un lit, avec un berceau en cododo. Et donc, moi, je dormais sur un lit à ressort, un lit de camp, pas sur le côté. Et c'était super, quoi.
Et tu parlais des premiers jours, c'est ça? Enfin, des premiers jours, des premières semaines, sur lequel, je pense aussi que c'est un moment un peu clé où si tu n'arrives pas à trouver ta place, tu peux très vite laisser le train passer et c'est super dur de le récupérer, quoi.
C'est dur parce que, en fait, si tu veux, les premiers jours, pour le coup, quand tu reviens chez toi, c'est marrant parce que t'es chez toi, mais plus rien n'est pareil. Tu vois? Plus rien n'est pareil. En plus, t'es crevé. Clairement, t'es crevé, t'en peux plus. La mère en peut plus, et elle en peut encore moins que toi. Et donc, en fait, il faut remettre en place un nouveau quotidien. Et ça, c'est un vrai défi, je trouve, pour les couples parentaux, de remettre en place une dynamique, surtout qu'en plus, t'es avec un nouvel être que tu ne connais pas. Tu sais pas encore ce qui se passe, donc ok, t'as compris, et heureusement pour le coup que tu t'es instruit avant, et je pense d'ailleurs que c'est essentiel de s'instruire avant, voire même avant de vouloir faire un enfant pour bien comprendre où on met les pieds, parce que c'est ce qui m'a permis de comprendre notamment que attends, là elle pleure, mais alors couche, ok, tété, ok, dodo. Écoute, visiblement, elle est éveillée, c'est qu'elle dort pas. En fait, avant, c'est une fois que tu avais coché les cases qui permettent la survie biologique et mécanique du bébé, c'est-à-dire que dans les années dans lesquelles nous on a grandi, hein, dans les années dans la deuxième partie du XXe siècle, on pensait que, était revenue cette pensée expliquant que le nourrisson, c'était principalement un estomac doté d'alarmes qu'il fallait remplir et évacuer régulièrement, quoi. Sauf que voilà, c'est bien plus que ça, et c'est là où par exemple des choses comme le portage m'ont beaucoup apporté, quoi. C'est-à-dire que hop, c'était un coup en écharpe ou un coup en autre moyen de portage, et tu passes l'aspi, et puis la petite s'endort, quoi. Et on faisait énormément de siestes comme ça par ailleurs. Il y avait le combo portage ventral aspirateur, c'était le combo ultime, quoi. c'était ultime.
Et tu veux dire que ta fille s'endormait systématiquement dès que tu la mettais en écharpe et que tu passais l'aspiro.
Ouais, bruit blanc, écharpe, peau à peau, et c'était direct. Et pour le coup, on faisait beaucoup de... Alors, il y avait une canicule, on avait réussi à aménager une pièce climatisée, on nous avait prêté du matériel et tout, enfin bref, on s'était vraiment organisé. Et par contre, je faisais beaucoup de peau à peau. Et ça, le peau à peau, c'était un moment super intéressant parce que c'est le moment où je récupère la petite et où ma compagne peut se reposer, tu vois. C'était vraiment un moment essentiel. Si on devait le seul truc que qu'on anticiperait plus, je pense, c'est la bouffe.
Votre bouffe à vous
ou... de notre bouffe à nous. C'est soit de dire aux grand-mères, venez pas nous apprendre, essayer de nous apprendre à changer une couche, c'est bon, on a compris, mais venez faire à manger, venez, ou préparons à manger des plats congelés en avance. Enfin voilà, c'est parce qu'en fait c'est toute une charge mentale que tu t'enlèves et où tu peux te concentrer sur autre chose, quoi. Parce que t'es en train d'assimiler tellement d'informations. Enfin moi c'est ça que je trouve dingue. Tu vois, en tant que professionnel de l'accompagnement de l'humain pour le coup. T'es en train d'assimiler une quantité d'informations qui est oufissime, quoi. Et pourtant, si tu veux, moi, j'avais le temps.
Et en plus, dans un contexte parfois difficile où tu manques de sommeil, où bah, justement, il peut y avoir des tensions aussi entre parents, parce que, comme tu dis, il faut se réacclimater, il faut réinventer un quotidien, etc. Enfin, en plus...
Tu manques de sommeil pour peu que... Alors là, moi, je donne un contexte avec allaitement, puisqu'on a allaité et qu'on allaite encore. Donc voilà, mais en plus tu vois, l'allaitement c'était pas rose tous les jours, ça a mis du temps, on a rencontré des difficultés, donc t'es dans des contextes où en plus il y a aussi toute cette pression, en plus comme c'est le premier, tu sais pas quoi, et d'un côté en plus tu dois lutter contre les injonctions de enfin si tu veux, moi on a réussi à me dire que ma fille elle faisait un caprice parce qu'elle pleurait à 2 mois et demi, quoi. Donc non, tu vois, enfin c'est truc d'un autre temps, c'est pas la peine. Et donc tu luttes contre plein de choses, quoi. T'es vraiment dans un tourbillon déjà hormonal, clairement. Et puis tout est bousculé et t'es fatigué, ouais. C'est clair que le sommeil, le sommeil c'est. Moi je me rappelle que les premières nuits, donc nous cododo allaitement. Donc c'est chouette parce que clairement c'est une belle situation pour le père parce que tu te lèves pas pour donner un biberon ou machin. Donc c'est chouette. Et puis en plus, comme la nature est bien faite, il se trouve que quand la maman allaite en cododo, ce qui est prévu dans l'espèce, soit dit en passant, la nature est bien faite, on lui donne des hormones pour qu'elle se rendorme. Donc ça c'est chouette. Donc c'est fait pour, laissons faire. Par contre, alors là, pour la mère, comme pour le père ou comme pour les coparents, moi, je savais pas qu'un bébé, ça faisait autant de bruit quand ça dormait, si tu veux. Tu vois. Et en plus, pour le coup, comme t'es pas habitué, et que tu crées un lien avec ton enfant.
T'es un peu en alerte aussi.
T'es en alerte complètement, si tu veux. Pour tous ceux qui ont vu l'épisode 1 de Babies sur Netflix, tu comprends que le simple que homme, femme ou pas, ou autre, tu le fait de t'occuper, de donner du soin à cet être, fait que tes amygdales s'ouvrent et que tu as cette espèce, pas d'angoisse, mais d'alerte permanente qui est ouverte et que ça va durer toute ta vie. Hein. Donc, cherche pas, ça va pas partir. C'est foutu. et si tu veux, en plus, voilà, le moindre petit bruit de reniflement, de machin, de trucs que tu connaissais pas, en fait, qui est tout à fait normal, hein, mais que tu connaissais pas, notamment les premiers jours, tu sais, quand t'as encore des trucs dans les voies respiratoires, là, qu'il faut évacuer, t'es en mode, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? Donc, tu te réveilles, en plus, en mode super stressé. Et voilà. Et donc, pour le coup, soit tu te réveilles à deux, soit c'est l'un, soit c'est l'autre. Enfin, voilà. Le sommeil, c'est clairement un gros sujet dans les premières semaines. Mais c'est ce qui avait de cool aussi, du fait d'avoir mis ces vacances-là.
Ouais.
On était crevés, mais d'un autre côté, on s'en battait les couilles parce qu'on vivait au rythme qu'on voulait, quoi. Tu vois?
Je vois bien.
Et donc, il y a eu ces 2 semaines ensuite où j'ai dû rentrer travailler et où c'était extrêmement dur. Je sais que la première fois que je suis parti 2 nuits, donc 3 jours.
Donc ta fille avait 1 mois, c'est ça?
Ma fille avait un petit peu plus, un mois et demi, ouais. Un mois, ouais. Non, si c'est ça, un mois, carrément, un mois. Et je me rappelle très bien un moment où je suis parti 3 jours en dormant 2 nuits à Poitiers. Et où je m'étais dit, en fait, en rentrant, tu vois, malgré tout ce que je savais, malgré la thérapie, machin, tu vois, c'est là où tu sens que t'as beau avoir les outils, faut toujours bien comprendre que il n'y a pas de thérapie miracle, t'as juste des outils pour appréhender des situations. Mais je me disais, en rentrant chez moi, mais elle va me détester, elle va plus vouloir que je la touche, elle va me le faire payer, quoi, tu vois. j'étais dans cette mécanique-là. Et là, je me rappelle parfaitement que je rentre chez moi, il est 20h30, la petite dort pas, je la prends dans mes bras et elle me sourit, quoi. Et en fait, je m'effondre en larmes. Je m'effondre en larmes parce que je me rends compte que cet amour inconditionnel que j'ai la réponse en face. Tu vois, c'est pas ce que j'ai connu dans ma vie.
Oui.
J'avais jamais connu ça dans ma vie. Moi, dans ma vie, ce que j'avais connu, c'est on a beau s'aimer, si tu fais un choix qui me convient pas, tu vas le payer, mon petit gars. Tu vois. Et là, c'était pas ça. C'était juste, je t'aime, t'es là, je suis heureuse. Et ça m'a submergé. Et donc 2 semaines, et ensuite congé parental. Et là, c'est chouette parce que tu commences à t'aguerrir un peu, tu vois. Déjà, très clairement aussi, moi, pendant 2 semaines, j'ai aussi vu d'autres humains, tu vois, d'autres adultes, et j'ai vu le bien que ça m'avait fait. Et c'est là aussi où tu comprends qu'il faut inviter des amis, mais qu'il faut pas forcément parler du bébé, qu'il faut arrêter parce que la maman, alors, petit message pour celles et ceux qui visitent des nouveaux parents, les parents répondent aux mêmes questions 15 fois dans la semaine, tu vois, à chaque nouvelle personne qui vient. Et c'est chouette de parler aux parents, de savoir comment eux y vont. Parce que le bébé, en fait, c'est super dur. Je disais sur les réseaux, je crois que c'est Ilana Weisman qui avait écrit ça, que le drame de la maman, c'est que pendant 9 mois, elle est le centre de tout. Et du jour au lendemain, elle est juste accessoire du bébé, quoi. Ça doit être dramatique.
Ça contribue, je pense, beaucoup au postpartum, d'ailleurs.
Là où, par ailleurs, le père est plutôt encensé. Hein, surtout dès que tu participes, dès que tu changes une couche, tu es un homme formidable. Donc, c'est dramatique. Non, mais c'est vrai.
Bien sûr.
Tu arrives dans un monde où moi... Et d'ailleurs, c'est ce qui se passait. Hein,
Toi, t'es un Superman, toi.
Mais c'est ça. Moi, on me disait, mais c'est génial, Cédric, nanana. Et voilà. Et donc, t'arrives donc à un moment plus aguerri où toi, en plus, t'as pris cette leçon d'être retourné travailler, de te rendre compte que ça fait du bien. Donc, tu changes des petits curseurs en disant, voilà, on va avoir du monde. Même si c'est du monde qui nous dit de la merde, des fois, on va avoir du monde. Il faut qu'on voit du monde et qu'on parle comme on parlait un peu avant aussi, tu vois. Donc, on met des choses en place, tu remets les curseurs en place et puis arrivent les premiers rendez-vous. J'ai appris par ailleurs, assez récemment, cet été, je crois que c'était une stratégie de ma compagne, si tu veux, par exemple, que ce soit moi qui gère les rendez-vous médicaux de la petite.
Pour te responsabiliser, ça.
Ouais, exactement. C'est quelque chose qu'elle avait entendu dans Les couilles sur la table de Victoire Toyon. Et en fait, c'était une vraie stratégie de sa part de me faire rentrer pleinement dans le care, si tu veux, de la petite. Même si elle, ça pouvait la stresser, ma méthodologie, on va dire. Voilà, elle voulait que je rentre pleinement dans cette truc-là. Et donc, pour le coup, c'était moi qui étais en charge du carnet de santé et du suivi.
C'est hyper malin. Mais ça, effectivement, ça doit nécessiter de sa part une forme de lâcher prise aussi parce que.
Ah, mais surtout pour une professionnelle de santé.
Ah oui, c'est vrai.
Attends. Il y a des trucs où elle a gardé la main parce que, tu vois, par exemple, genre, elle m'expliquait que, alors, elle est professionnelle de santé. En plus, elle avait fait un DU en épidémio, je crois, en stats. Et donc, pour le coup, elle était très calée sur ce sujet-là. Et elle m'expliquait que les courbes qu'il y avait dans les carnets de santé, elles étaient pas assez pointues, pas assez, voilà. Et moi, je lui ai gentiment expliqué que je veux bien m'occuper du carnet de santé, mais que je suis pas compétent, en fait, si tu veux, pour dire si une courbe qui est dedans est bonne ou pas bonne. Donc ça, c'est le seul truc, si tu veux, qu'elle avait gardé, c'était, OK, donc, donne-moi les chiffres à suivre et moi, je vais les rentrer dans mes trucs pour avoir une courbe différente. Donc ça, c'était le seul point, tu vois, où elle bataillait. Mais pareil, c'est super intéressant, quoi. Parce que tu te retrouves à être dans... En fait, ce qui était fort, c'est qu'en étant là tous les deux, on était dans une construction de mécanismes communs. Et ça, c'était super intéressant.
L'un des intérêts du congé paternité, notamment, c'est de créer ce système-là ensemble, quoi.
Exactement, c'est de créer ce système-là ensemble. Et je suis content d'avoir pris ce congé parental que j'aurais voulu plus long. Moi, j'aurais voulu prendre 6 mois. Mais financièrement, enfin, tu te passes de 6 mois de salaire, quoi. Donc,
ouais. Pour remettre un peu de contexte, mais le congé parental en France, il est très très peu rémunéré, quoi.
392 euros pour du temps plein par mois. C'est ridicule.
Donc... Effectivement, autant te dire que effectivement, il faut se priver de ton salaire pendant ce temps-là, quoi.
Ouais, mais c'est exactement ça. Et donc c'était. Ça n'a pas duré aussi longtemps que je voulais, mais c'était quand même une belle expérience. Et c'est quelque chose que je recommande très vivement. Voilà, s'il y a des gens qui écoutent et qui se posent la question, anticipez. Moi, ça nous a coûté des vacances, hein, bien sûr. Hein. Mais voilà, anticiper financièrement, c'est vraiment des moments qui sont inoubliaux pour citer un sketch connu. Mais voilà, moi en tout cas, j'ai vécu des super moments et surtout, ça m'a permis aussi de vivre ce moment où ta femme reprend le travail et où t'es tout seul avec le gosse. Alors autant te dire que la première journée, ça a été l'horreur. Je me rappelle vraiment de cette première journée où ma femme a repris le travail et Sarah pleure. J'ai beau faire tout ce que je veux, elle pleure. Et je me dis, dans si tu veux, dans ma logique, que elle pleure parce que sa mère est pas là et qu'elle comprend pas pourquoi elle est pas là et que sa mère lui manque. Tu vas avoir 3 heures de podcast, hein, tu t'en rends compte. Et si tu veux, elle pleure pour ça, mais en même temps, ces pleurs, si tu veux, au fond de moi. C'est là où j'ai commencé à avoir les premiers vraiment gros échos avec mon enfant intérieur, si tu veux. C'est que j'avais vraiment j'ai une jalousie qui est montée ce jour-là, mais un truc de malade. Vraiment, j'ai une partie de moi qui me disait, non mais attends, je te donne des câlins, je te donne toute l'attention que moi j'ai pas eu, et toi tu me fais ça, tu te mets à pleurer. Et en fait, si tu veux, ça montait un petit peu. Et puis en plus, c'est là, notamment là, que j'appelle ma sœur en l'occurrence. Qui prend des nouvelles, je sais plus, enfin bref, on s'appelle, et puis elle me dit, ouais, mais là, elle est en train de te manipuler, là. Alors, elle te fait un caprice, elle est en train de te manipuler. Elle a 2 mois et demi, la gamine. Hein. Donc, en plus, on te dit des conneries, ça t'énerve encore plus. Et puis, en fait, à un moment, je sais plus, milieu d'après-midi, je sens que ça va pas, tu vois, je sens que ça monte trop. Elle en est à sa 5e crise, je crois, de pleurs inarrêtables. Et en fait, je fais un choix que je regrette absolument pas et que je referai si besoin. Je la pose. Mais attention, tous les anti-VO vont péter un câble. Je la pose de manière tout à fait sécurisée dans un parc. Voilà. Et je prends le temps de faire le tour de la maison à pied. 5 minutes en respirant. Je l'entends qu'il pleure, hein, mais voilà. À un moment, fallait que je décompresse. Je respire. J'analyse un peu ce qui se passe en moi. Ok, je comprends la jalousie. Très bien. Ok, très bien. Et en fait, je reviens. Je suis serein. Et je te promets, je la prends dans mes bras. Elle arrête de pleurer. Et en fait, tout ça, ce sont des expériences qui sont super intéressantes aussi parce que pendant toute cette journée où tu vis cette pression-là, cette tension-là, les pleurs, machin, ben, t'as tout aussi le quotidien. Il faut la nourrir, il y a les couches, il y a machin, il y a le truc. Enfin voilà, t'as un bébé, quoi. Et t'es tout seul. Tu peux pas t'appuyer sur quelqu'un d'autre. Et c'est là aussi où tu comprends que, chose que j'ai appris bien plus tard, que en fait, c'est pas du tout naturel pour un humain adulte de rester seul avec un bébé toute une journée. L'espèce n'est pas prévue pour ça. On est censé rester en groupe.
En tribu.
Oui, en tribu. Et je peux te dire que maintenant que je sais tout ça, parce que je savais pas tout ça à l'époque, j'avais pas encore créé Papatriarcat, maintenant que je sais tout ça, il y a plein de choses que je ferais différemment. Mais d'un autre côté, je pense que le fait que l'homme ou le coparent soit seul avec l'enfant une période, c'est extrêmement enrichissant, notamment en termes de répartition de la charge mentale du foyer. Voilà.
Tu veux parler de la charge mentale ? Je sens que tu veux parler de la charge mentale.
Comme pas spécialement.
Non.
Non, pas spécialement.
En fait, c'était hyper intéressant déjà que ta femme se lance. Enfin, tu vois, te file cette charge de
oui.
Des rendez-vous médicaux, quoi.
Mais en fait, si tu veux, le truc, c'est que avec un bébé. Enfin, avec l'arrivée d'un enfant, t'as toute une charge qui n'était pas présente dans l'équilibre du foyer qui arrive. Sachant que quand tu fais l'allaitement, il y a une charge qui est forcément à la mère. Tu vois, tu fais pas autrement. À côté de ça, bon, nous après, si tu veux, niveau répartition des tâches, on était déjà sur quelque chose d'essentiellement assez équilibré, en tout cas qui nous convenait, et qui nous convient toujours. Et donc là-dessus ça allait. Par contre arrive les couches et puis ma compagne a insisté pour qu'on fasse des couches lavables. Moi je lui disais, enfin moi sur mon point de vue c'était le suivant, c'était écoute, moi j'ai jamais connu de couches, donc je saurais pas te dire si on fait que les couches lavables, je saurais pas dire si c'est plus ou moins chiant que les couches pas lavables, tu vois. Donc profites-en si t'as envie de le faire, fais-le. Je dis par contre, il y a juste un truc, et alors là, désolé, je vais rentrer dans un gros cliché, mais moi, si tu veux, dans la charge du foyer, il y a un truc où je m'améliore, j'y travaille, et mais où je suis pas doué, c'est le linge. Voilà. Et c'est très clair pour nous deux que plier les couches, les ranger, les machins, les préparer, pas de problème. Les laver, me rappeler comment traiter, enfin, j'ai bien conscience que c'est sûrement une construction totalement cliché sexiste qui me reste, mais franchement j'en chie gavé, quoi. J'ai beaucoup de mal avec le linge, et donc il y avait cette charge là mais pas de souci. En fait si on partit du principe que c'est pas un problème si qu'elle gère cette charge là pratiquement seule, tant que les charges globales du foyer sont équilibrées. Donc on a trouvé d'autres astuces, tu vois, voilà, de gestion des autres charges, notamment sur la bouffe, la vaisselle, le ménage et tout ça. Donc en fait c'est toujours une question d'équilibre, quoi. C'est moi, si tu veux, la charge mentale, c'est une question d'équilibre. C'est une question d'équilibre dans le couple. Je pense très sincèrement que il faut qu'il y ait beaucoup de communication, beaucoup de respect, de compréhension, d'empathie, et qu'après ça regarde chaque couple, quoi. Il n'y a pas de réponse. On n'a jamais été égalitariste jusqu'au bout des ongles. Il y a des choses sur lesquelles on est très cliché. Quand il faut réparer une prise électrique, un machin, ben c'est papa qui s'y colle.
Parce qu'en fait,
c'est des compétences que j'ai acquises. C'est tout. C'est des compétences que j'ai acquises. Oui, parce que je suis un garçon. Oui, parce qu'on m'a éduqué à couper du bois et à réparer des trucs. C'est comme ça. Ben autant les mettre à profit. Pour autant, tu vois, c'est pareil avec la tondeuse. Pour autant. Quand on a acheté la nouvelle tondeuse, c'est con ce que je veux dire, mais quand on achète la nouvelle tondeuse, on a pensé à un modèle qui lui permettrait de l'utiliser elle aussi. Et donc depuis, elle passe aussi la tondeuse. Voilà. Non mais c'est con, tu vois. Mais on avance. Là, tu vois. Enfin bref. Donc il y a pas de, on n'est pas dans en mode égalitariste à tout prix, quoi. Ça c'est peut-être un mode qui convient à d'autres personnes, mais pas à nous.
J'entends bien. Mais en tout cas, c'est intéressant de partager ce genre d'infos aussi. Moi, je sais que, par exemple, moi, quand j'ai découvert la charge mentale, je pense 2017, un truc comme ça, sur Mademoiselle notamment, ça a été, j'ai tenté de changer le système qu'on avait avec mon ex, et c'était super dur, en fait, parce que le système, il était trop établi. Elle comprenait pas pourquoi, à un moment donné, j'ai eu du mal à l'impliquer dans le truc aussi, tu vois, à lui faire comprendre l'intérêt. Et c'était super difficile de tout changer, notamment vis-à-vis des enfants, si tu veux. Le truc où c'est elle qui a tous les... Tu sais, le fameux truc, c'est elle qui a les numéros, son numéro à l'école, etc. Et en fait, même quand tu dis, en fait, le premier numéro, c'est moi en premier, en tant que père, en fait, l'école, systématiquement, elle appelle la daronne.
Non mais ça c'est systémique, enfin c'est ouf, quoi. L'école appelle la daronne, les services médicaux aussi souvent, tu vois. Mais tu vois, une autre astuce aussi, par exemple, que ma compagne a fait, c'est que c'est moi qui ai dû trouver la nounou.
Ah oui, très bonne idée.
Très bonne idée. C'est moi qui fais les recherches de nounou, machin. Ce qui fait qu'en fait, ça t'oblige à t'impliquer sur qu'est-ce qu'on a attendu de nounou, qu'est-ce que machin, tu vois. Et donc tu vas encore plus loin dans le care, et c'était super intéressant.
Tu peux mettre en place un bon rétro-planning avec une bonne feuille de route.
Voilà, exactement. Non, mais c'est ce que j'ai fait. Mais et en effet, c'est vrai qu'on appelle la mère. Et tu sais que ma compagne, donc, qui est professionnelle de santé et qui s'occupe des parents, même en sachant tout ça, même en étant clairement féministe, elle, en tant que professionnelle de santé, quand elle voit un papa se ramener seul avec un jeune enfant, un de ses premiers réflexes, c'est de se dire « mais où est la mère, quoi ?» Où est la mère, et pour plusieurs raisons. Et elle a l'honnêteté de travailler le sujet. Hein. Et où est la mère, pour plusieurs raisons, c'est un, elle s'occupe pas de son gamin. Tu vois, c'est dramatique, hein, de dire ça, mais c'est même quand t'as conscience de ça, c'est tellement systémique que c'est ancré. Et le truc, c'est de dire non mais le papa, il va faire n'importe quoi. Non mais vraiment, c'est et bon, donc pour le coup, elle travaille là-dessus. Mais c'est intéressant de se dire ça, parce que c'est à dire que la solution, s'il y en a une, mais il y en a une, elle viendra certes des hommes, bougez-vous le cul, les gars, impliquez-vous, mais pas que. Faut aussi accepter que le système patriarcal, en l'occurrence, il est ancré bien sûr chez les hommes, et on en tire profit, mais il est ancré chez tout le monde, tu vois. Ouais. Et donc faut actionner tous ces leviers si on veut que ça change. Pour autant, c'est pas une excuse, les gars, pour attendre le cul sur le canapé qu'on vient de vous solliciter.
Ouais, c'est sûr. Mais c'est, je pense que c'est d'autant plus dur pour un gars quand il cherche à se bouger, s'il se prend deux, trois soufflantes de la part de la maman ou du coparent, si tu veux, de se dire, bon, bah, en fait, maybe c'est pas ma place et je vais rester sur le canapé, quoi, tu vois. Et encore une fois, ça nécessite de se battre aussi contre ça si jamais vous êtes dans ce cas-là, quoi. Mais c'est dur, hein.
Ben après, si tu veux, ça dépend de l'approche. C'est toujours pareil. C'est quand tu veux intervenir sur un sujet, quel est l'avis de la personne avec laquelle tu dois intervenir ? Tu vois ? Mais ça vaut sur tous les sujets du monde. Hein. Parce que venir dire à quelqu'un, alors je parle pas de toi, je sais pas comment c'est passé chez toi, mais moi je sais que si j'étais arrivé en disant à ma femme, écoute chérie, j'ai compris la charge mentale, donc maintenant je vais faire ça. Ça aurait pas marché. Ouais, nous, là où ça s'est posé, c'est que je lui ai dit, écoute, je comprends bien le problème de la charge mentale. Qu'est-ce que je peux faire pour pas t'aider, mais pour améliorer ma prise de charge mentale. Tu vois, notamment quand j'étais sur Poitiers, clairement tous les soirs quand je rentrais, c'était un brin de ménage. J'avais la vaisselle à faire. C'était ok pour ça. Moi, je rentrais vers 20h30, 21h. Je passais une heure à peu près à faire des tâches de la maison. Et ensuite, je passais une à deux heures à regarder un film ou quand ma compagne était dispo, on passait du temps ensemble. Et c'était chouette, quoi, tu vois. Mais il y avait ce temps, voilà, c'était un temps qui était dédié. Et bien sûr, le week-end, il fallait aussi traiter les points. Ce qui fait qu'à un moment, t'arrêtes et tu changes de travail, tu vois.
Ouais, c'est sûr. Bah, faisons un petit fast-forward, ouais, si tu veux, pour parler de ton patriarcat.
Ouais.
De ce fait-là, t'as changé de boulot, c'est ça ?
En fait, ce qui s'est passé...
J'aimerais bien comprendre comment t'arrives à monter ce projet.
Alors, ce qui se passe, c'est que d'un côté, on est en 2019, et ma fille est née en juillet 2018, et dès mon retour de congé parental, j'explique à ma hiérarchie et aux ressources humaines que ça va pas être possible très longtemps de rester dans cette configuration. Différentes problématiques. Après, il y a le quotidien qui se passe, les problématiques du travail, du chiffre d'affaires, des résultats, machin, tout ça. Et puis des projets passionnants aussi. Hein. J'adorais mon travail, attention. Et donc, tu te fais happer un peu par le quotidien, et puis tu relances, janvier 2019, premier trimestre, puis tu leur expliques gentiment que, quoi qu'il arrive, au deuxième semestre 2019, tu vas activement trouver une solution, toi. Donc, j'ai fait des demandes en interne de rapprochement familial, que ce soit par des postes en interne, mais Bordeaux étant une ville plutôt recherchée, il n'y en avait pas, en fait, de disponibles. Et sinon, de rupture conventionnelle... pour rapprochement familial, tout ça m'a été refusé, donc j'ai quitté l'entreprise d'une autre manière. Et je me rappelle très bien aussi, si tu veux, de la formation de ma compagne aux États-Unis en novembre 2019, où j'ai dû rentrer plus tôt parce qu'il y avait le fameux Black Friday, et pourtant j'avais tout prévu, si j'avais tout calé. Et où je suis d'ailleurs convaincu que quand t'es un bon manager, justement, ça se détecte parce que ton équipe roule sans toi. Sinon, c'est qu'il y a un problème. Et où la réponse de ma hiérarchie avait été « Non, mais l'enjeu de chiffre d'affaires est trop important. » Et où moi, j'avais gentiment répondu « T'es en train de me dire qu'entre un chiffre d'affaires et laisser ma famille seule dans un pays étranger, je dois choisir un chiffre d'affaires. » Bon, j'ai pas trop eu le choix de choisir ou pas, hein, clairement, mais pour le coup, c'est vraiment un moment où je me suis dit que les priorités de ma vie n'étaient pas les bonnes. Et donc, il y a eu cette volonté. Et ensuite, en fait, en parallèle de ça, il y avait si tu veux, quand j'ai découvert les violences dites éducatives ordinaires, moi, j'aime bien creuser les sujets, si tu veux. Et j'ai un talent dans la vie, j'en ai qu'un, c'est de faire des liens. Et en fait, quand tu comprends le schéma de violence et le schéma de domination des violences dites éducatives ordinaires, tu comprends, s'ouvre à toi, en fait, tu prends une espèce d'énorme pilule rouge et s'ouvre à toi le schéma de domination des hommes sur les femmes, des blancs sur les non-blancs, des employés enfin des directions sur les employés dans un système capitaliste. Tu te rends compte que les gens avec qui tu travailles à ton travail ne sont capables que de raisonner, que de d'évaluer leur la qualité de leur travail qu'au travers de l'appréciation de leur hiérarchie. Et que c'est soit ils ont une prime, soit ils ont une sanction. Il y a rien au milieu, tu vois. Il y a pas de t'as fait ton job et c'est cool, tu vois. Tu te rends compte de toutes ces implications-là et tu t'engages aussi sur des sujets comme la diversification alimentaire menée par l'enfant, la motricité libre. Nous, on était déjà très renseignés sur l'instruction en famille puisque c'est un projet de vie chez nous. Et donc, t'argumentes. T'argumentes avec les gens à ton travail, t'argumentes avec les gens en famille puisque, bien sûr, il y a des gens qui découvrent des choses, il y a des gens qui trouvent ça géniaux, il y a des gens qui t'expliquent gentiment que t'as rien compris à la vie et que t'es vraiment le dernier des connards. Et donc, tu t'essayes de faire preuve de pédagogie. Et en fait, en même temps que tout ça se passe, je raconte, moi, sur d'un côté, à ma compagne les discussions que j'ai à mon travail et elle me voit discuter avec la famille. Et elle me dit, chérie, donc elle était à fond podcast. Hein, elle était à fond podcast. C'est elle qui m'a fait découvrir tous les podcasts que je peux écouter. Enfin, à ce moment-là. Et elle me dit, chérie, vraiment, il y a un truc. Il y a un truc quand t'en parles. Il faut que tu me dis vraiment, tu devrais faire un podcast. Bon, moi, clairement, à ce moment-là, j'avais pas du tout la tête à ça. J'étais en mode, il faut que je quitte mon travail. Enfin, voilà. Et je lui ai gentiment dit, écoute, ouais, enfin, ton idée, c'est gentil, mais pas là, tu vois. Enfin, j'avais pas la charge. Justement, j'avais pas l'espace mental disponible pour. Mais mine de rien, elle avait semé sa petite graine, tu vois. Et donc, arrive le 4 janvier 2020. Et je ne reviens pas au travail. Voilà. Je décide de pas revenir au travail et de rester avec ma famille. Et là, en fait, cette graine qu'elle avait semée, elle a germé très, très vite. Et je commence à me dire, qu'est-ce que je dirais si je devais parler de ça? Qu'est-ce que je dirais si je devais parler de ci, si je devais parler de ça? Je commence à schématiser. Je commence à me dire, attends, mais faut pas aller trop loin, trop vite. Parce que j'écoutais aussi des podcasts déjà sur la parentalité où je me dis, mais comment est-ce que tu veux dire à quelqu'un qui a grandi en devant couper des lattes d'un martinet, que couper les ongles de son enfant pendant qu'il dort, parce qu'il n'arrive pas à être coopératif la journée, c'est une violence extrême. Non, il y a plein de choses entre. Et je découvre un monde qui est extrêmement binaire. Je m'intéresse aussi beaucoup au féminisme à ce moment-là. Et en tout cas, la lutte pour l'abolition du patriarcat. J'étais déjà sensibilisé, mais là, je m'intéresse vraiment au sujet. Et je me dis, voilà, il y a un lien entre les deux. Et je veux pointer ce lien, quoi. Il y a un lien entre les violences qu'on retrouve dans l'enfance et un lien dans les violences qu'on trouve dans la société, notamment dans les violences patriarcales. Et donc, je me dis pourquoi pas. Et j'achète un vieux micro Bird UM1 d'occasion à 20 balles sur Le Bon Coin. Je me fais un peu plaisir en contactant Fanny Vella que je ne connaissais pas et donc que j'appelais Madame Vella à ce moment-là par mail en lui demandant de bien vouloir si elle était OK pour me faire un visuel et je lui parle du projet et elle est emballée et elle me fait un visuel que je trouve super, que je paye hein, bien sûr, hein, c'est vraiment une transaction commerciale. Et puis j'enregistre mes premiers épisodes d'une manière totalement anarchique par ailleurs. Puisque je me rends compte que le fait de faire des scripts et des schémas à l'avance, c'est pas trop pour moi, que je préfère faire un plan, et puis qu'après, comme j'aime bien parler, comme tu peux t'en apercevoir, je me laisse aller, et puis on voit bien ce que ça donne. Je découvre Audacity, voilà, je découvre la plateforme de diffusion encore, je me renseigne sur tout ça. Et j'en parle aussi à une asso parentale qui s'appelle Les Petits Sages, qui est sur Bordeaux, que j'apprécie beaucoup, et on arrive à organiser une rencontre plutôt dirigée vers les pères. Enfin, on essaye, si tu veux, d'attirer des pères et on se parle sur une rencontre qui va s'intituler la parentalité au XXIe siècle, quel rôle pour chacun. Et on fait une petite rencontre comme ça le jour du lancement du podcast, le 9 mars, et où il y a un petit peu de monde. Donc ça, c'est le jour du lancement du podcast. Le lendemain du 8 mars, c'était l'envie où je lance ma présentation et mon premier épisode sur les violences dites éducatives ordinaires. En fait, ce qui s'est passé, c'est que je savais pas trop, moi, ce que ça donnait, quoi. Tu vois, je savais pas trop, je suis pas du tout expert du sujet. Et je le fais écouter à Fanny. Donc à Fanny Vella. Enfin, je lui propose de l'écouter. Et là, en fait, elle accroche gavée, quoi. elle fait un teasing sur ses réseaux, elle dit bientôt, là, le 9 mars, il y a tel podcast qui sort, faut aller l'écouter, nanana. Et donc, je crée un compte Instagram aussi. Ça, c'était un mois avant la sortie, le 12 février. Et puis, bah, écoute, ça s'est lancé comme ça, où je faisais un peu mes trucs, où à la base, je pensais même pas avoir d'invité. Et où j'avais prévu mes épisodes, donc en parlant des concepts qui m'intéressaient. Et où, par ailleurs, si tu veux, je viens mélanger. Enfin, je viens vraiment amener l'apport que je peux avoir dans ma formation professionnelle. Tu vois, par exemple, dans l'épisode sur les étiquettes, je parle des biais qu'on peut avoir quand on parle des étiquettes, des perceptions, et ça, c'est clairement de l'apport que j'ai eu dans l'accompagnement de l'humain en entreprise et dans les milieux associatifs et sportifs. Et donc, je me dis que voilà, tout ça, ça fait sens, et les gens, ça leur parle, et c'est cool, et c'est chouette. Et puis, il y a un compte Instagram qui se développe à côté, et puis voilà. Et puis, en fait, je pensais pas avoir d'invité, et je découvre que Marion Quercq a un compte Instagram. Et là, je me dis, écoute, je risque quoi à lui demander? Je risque qu'elle me dise non. Bon, bah allez, on y va. Donc, j'y vais, et puis elle accepte. Et puis, on fait un épisode ensemble, et c'est chouette. Et je suis vraiment... Moi, je suis comme un gosse, en plus, au départ. Et je suis ravi. Et puis, autre invité, Noémie Delattre, dont j'adore le travail, et qui accepte. Et c'est génial. Et on se fait un épisode à la base sur le consentement. Et puis voilà, et puis en fait, finalement, je me retrouve à interviewer des gens pour parler de leur vie de parents, mais dans des approches avec, on va dire, de concepts patriarcaux et de développement de l'enfant, et puis voilà, et puis plein de sujets. Et puis on en arrive à faire un podcast qui tourne un peu, et puis un compte Instagram qui a une certaine communauté, et voilà, pas patriarcat, quoi. Bien sûr, tout cela est suivi de déconstruction personnelle. C'est aussi une belle aventure pour moi, parce qu'il y a des choses que je pensais acquises, donc je me déconstruis, j'essaye de me retrouver dans des termes, je me cherche un peu, je me suis dit féministe, et puis on m'a dit qu'il fallait pas, et d'un autre côté, il y a d'autres genres féministes qui m'ont dit, mais si, on s'en fout. Mais je me dis, attends, je dois pas être féministe, je dois être allié. Et puis, en tant qu'allié, je me rends compte qu'il y a des trucs qui m'interpellent, il y a des fonctionnements qui ne me conviennent pas, à moi, personnellement. Donc, je me dis, écoute, je vais arrêter tout ça. Je suis en lutte contre le patriarcat. Voilà. Ça, c'est qui je suis. Et j'ai pas besoin de voir rentrer dans les cases de machin ou d'un tel. C'est bon, quoi.
Je pense que c'est dur quand tu commences et que tu démarres un petit peu, que tu découvres tout ça, c'est que tu peux avoir tendance, comme les gens se définissent beaucoup, notamment dans le militantisme, par des étiquettes, tu peux avoir tendance à vouloir t'attacher à une étiquette, et d'un côté, tu peux avoir des gens qui te disent, bah non, en fait, cette étiquette-là te convient pas à toi, juste parce qu'en fait, t'es un homme cis blanc, machin. Et donc toi, tu dis, ah bon, bah alors c'est quoi la meilleure façon de... Et ben, en vrai, il y en a pas. Juste la tienne à toi, quoi.
Il y en a pas. Il y a la tienne à toi. Et puis, il y a quand même aussi une grosse chose qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut apprendre à fermer sa gueule. Clairement. Je pense que c'est une des grosses claques qu'il faut prendre et qu'il faut bien comprendre. C'est que, ouais, quand t'es un homme cis blanc, même si, bon, ça, c'est un sujet, on pourrait faire un podcast dessus, mais, il faut comprendre aussi que t'as des mécanismes en toi. Notamment le fait de couper la parole quand une personne, une femme ou une autre personne concernée par une problématique qui n'est pas la tienne est en train de l'expliquer. Le fait que, visiblement, penser que donner ton avis alors qu'il n'est pas sollicité, c'est normal. Mais non, c'est pas normal. Voilà, il y a plein de choses comme ça sur lesquelles il faut s'éduquer. Ça peut être plus ou moins douloureux, mais il faut le faire. Et puis après, il y a des choses qui sont des vrais positionnements politiques. Tu vois, il y a des questions... Moi, je sais qu'il y a un moment où quand je me disais allié, il y a une question qui m'a perdu, si tu veux, parce qu'il y a des sujets sur lesquels on vient te chercher. Toi, t'en parles pas, t'as rien demandé à personne, mais on vient te dire, est-ce que tu es pour l'abolition de la prostitution? Je sais pas, peut-être, donc t'échanges un peu avec la personne, elle te dit, non mais si t'es pas pour, t'es pas un vrai allié du féminisme. D'accord, ok, écoute, je prends note, je vais y réfléchir, et quelques temps après, t'as une autre personne qui vient te voir et qui dit, est-ce que tu es pour la défense des travailleurs du sexe? Attends, parce que la prostitution, c'est bien. Mais attends, parce qu'il y a quelqu'un qui m'a expliqué il y a 2 semaines que si j'étais pas contre la prostitution, j'étais pas un allié féministe. Non, mais eux, c'est pas des vrais féministes. Et si t'es pas pour les travailleurs du sexe, t'es pas un vrai féministe. T'es pas un vrai allié féministe. Et là, je me suis dit, bah, tu sais quoi? On va dire que je suis pas un allié féministe dans tous les cas. Hein? Et puis, je vais faire mon truc. Et puis voilà. Et puis, quand je me serai décidé sur ces sujets, et si on me pose la question, je m'exprimerai. Sinon, j'estime que c'est pas des sujets que j'ai abordés. Mais tu vois, c'est aussi ça. C'est aussi accepter que, en tant qu'homme et humain pas concerné, ben, tu fermes ta gueule. Juste, c'est pas des, enfin, t'es même pas obligé d'avoir un avis, quoi.
Ouais, donc, j'ai vu que sur ton site, tu fais partie d'une association qui s'appelle le Comité des hommes, c'est ça?
C'est la coopération d'hommes pour l'abolition du patriarcat, c'est la CHAP. Je salue Didier Charuel et qui l'a créé avec tout le petit groupe qu'on peut être. Qui sont des gens qui m'ont beaucoup intéressé, qui m'intéressent beaucoup par ailleurs, et qui sont à des niveaux de déconstruction extrêmement avancés. Pour moi, la CHAP, c'est une vraie source d'inspiration, dans le sens où, quand je me dis que j'ai fait le tour d'un sujet, je vais creuser, je vais consulter les petits camarades et je vais voir ce qui se passe. Et je m'aperçois que j'ai pas fait le tour et que je peux creuser un peu, ou que je suis arrivé à un niveau qui, moi, me satisfait et où je m'arrête là. Le seul truc, et si tu veux, c'est encore toujours pareil, c'est toujours le même sujet, c'est t'as des gens qui sont déconstruits et qui creusent un sujet à fond, mais qui sont dans une société où la grande majorité de la population ne s'est même pas posé la question. Et tout comme pour les violences dites éducatives ordinaires, tu te retrouves à expliquer, à parler avec des mecs, on va rester sur les mecs cis blancs, machin, qui ne se sont même pas posé la question de savoir s'ils interrompaient une femme quand elle parle, qui se sont même pas posé la question de savoir si le fait de se dire qu'une fille qui s'habille en mini jupe et en croc top par exemple, à un moment elle cherche un peu quand même, si c'était ok ou pas ok, qui se sont même pas posé la question de savoir si le fait que quand une femme leur dit là j'ai pas envie et d'insister pour coucher avec, c'était un non-respect du consentement. Et tout à coup, on va venir leur parler de... Non mais tu vois, on va venir leur parler de privilèges qui sont des notions auxquelles j'adhère. Je n'ai pas de souci avec ça. Mais en fait, il y a un gap, il y a un chemin à faire entre les deux. Tu vois. Et pour le coup, ces gens-là se retrouvent à se prendre un mur sur lequel ils se fracassent. Et potentiellement, ensuite, t'as deux réactions possibles. En tout cas, j'ai observé deux réactions possibles. Soit ce sont des gens qui acceptent de se prendre le mur et qui se remettent en question, soit ce sont des gens, malheureusement, qui se confortent. Parce que c'est aussi un principe de préservation pour eux-mêmes et pour leur esprit, qui vont se conforter là-dedans et qui vont potentiellement nourrir les rangs masculinistes.
Carrément.
Ah ben ouais. J'aime bien je pars du principe que quand t'es pas d'accord avec quelqu'un, faut toujours écouter ce qu'il dit. Pour moi, c'est important de connaître les arguments des gens avec qui je suis pas d'accord. Donc je vais écouter les vidéos masculinistes et je traîne sur les forums masculinistes de temps en temps, et je t'assure que le nombre de témoignages de mecs qui disent moi, j'ai voulu m'essayer au féminisme, mais on m'a répondu que je suis un homme blanc cis hétéro et que je devais fermer ma gueule. Bah non, je suis un être humain. Enfin, en fait, c'est pas que le message sur le fond est pas ok. C'est juste que l'homme blanc cis hétéro de base, il est pas apte à entendre ça comme ça d'emblée, si tu veux. Et donc, la question, c'est comment on fait le lien dans tout ça.
Je sais pas si t'avais écouté cet épisode qu'on avait fait avec Mimi à l'époque dans The Boys Club, où on avait reçu un mec qui se disait anti-féministe, en fait, et qui a été victime carrément de viol dans sa famille quand il était petit, si tu veux. Et quand toute la libération de la parole des femmes autour du viol est arrivée, notamment avec les blogs, etc., 2012-2013, tu vois, avant MeToo même, il s'est pointé, il a dit dans les commentaires « Salut !» Moi aussi, je suis victime de viol. En fait, il a reçu des commentaires de de femme qui lui disait bah en fait non c'est pas ton moment, tais-toi. En gros lui il s'est dit bah ah merde, alors en gros bah moi je suis victime autant que vous, en tout cas dans ma tête, tu vois.
Ouais.
Et bah de ce fait là le gars s'est dit antiféministe. On a une discussion pendant une heure et demie, bah je vous mettrai le lien dans les notes, qui est je trouve fascinante en fait, parce qu'on s'écoute, tu sais, et lui nous écoute et il vient pour nous écouter aussi, et on l'écoute dans l'autre sens. Et en fait c'est juste un moment d'humanité où on finit par être pas d'accord sur certains trucs, pas se rapprocher sur d'autres, mais c'est très rare dans notre société actuelle d'avoir des moments où on s'écoute les uns les autres, quoi, tu vois, plutôt que de se dire lui c'est l'ennemi, j'en veux pas.
Mais c'est moi c'est ce qui m'intéresse. Alors moi si tu veux aujourd'hui ce qui m'interpelle c'est l'absence de nuance. Autant je la comprends parce que souvent ce que je dis, je sais plus, j'ai déjà tenu ce propos, je sais plus où, mais souvent ce que je dis, c'est que le jour où j'aurai subi toute ma vie une oppression, une discrimination liée à une de mes caractéristiques primaires, donc sexe, orientation sexuelle, couleur de peau, tout ce qu'on veut, le jour où ça sera le cas, j'essaierai de me plaindre. C'est pas le cas. D'accord. De base, moi, je suis OK pour dire qu'un homme blanc hétéro cisgenre n'a pas subi de discrimination sur ses critères primaires, de manière systémique, j'entends. Mmh. Ça veut pas dire que être un homme blanc cis hétéro fait toi le mec le plus heureux de la terre. C'est juste que c'est quand même plus facile de l'être a priori que si tu ne l'es pas. Pour autant, J'entends aussi le fait que ça soit énervant pour les personnes victimes d'oppression qu'une personne qui ne connaît pas ses oppressions et qui essaye de se remettre en question vienne dire ouais mais c'est difficile quand même pour moi de comprendre ça. Mais c'est juste, je comprends que ce soit énervant, mais c'est vrai quand tu connais l'esprit humain, quand tu connais l'accompagnement de l'humain et quand tu connais même les neurosciences qui nous éclairent aujourd'hui, c'est juste que le mec de base n'a pas les câblages pour comprendre ce que tu es en train de lui dire. Donc il faut faire le câblage. Et si on le fait pas, il y a quand même une grosse proportionnalité de chance pour que son instinct de préservation, que ce soit au niveau psychique ou physique, fasse qu'il aille vers le chemin où il a des connexions neuronales qui sont déjà prêtes. C'est-à-dire de dire, ben, l'homme c'est comme ça, la femme c'est comme ça, et gna gna gna, et gna gna gna, et gna gna gna. Et de faire de lui un connard encore plus avancé qu'il ne l'était. Et donc, si tu veux, c'est là où c'est compliqué, parce qu'en fait, on se retrouve... Alors, et là, je mets un gros bémol. Hein, on se retrouve principalement sur les réseaux sociaux. Parce que moi, j'ai rencontré, par exemple, dans l'association Nous Toutes, une liberté d'écoute, de compréhension et d'engagement que je trouve incroyable. J'ai rencontré au planning familial le même environnement qui est extrêmement respectueux, peu importe qui tu es. Et aussi dans d'autres structures comme le club Femmes d'ici d'ailleurs qui tient un magazine où voilà il y a beaucoup d'écoute, il y a beaucoup de tolérance. Mais sur les réseaux sociaux, ce que je constate, c'est que t'as une partie de la population qui défend une non-binarité et qui a raison de le faire, mais d'un autre côté qui résonne d'une manière très binaire. C'est-à-dire si t'es pas d'accord à 100% avec ce que je dis, tu es un ennemi. Mais l'humain, c'est pas ça. Je suis désolé de le dire. Hein. C'est
comment ça, t'es désolé de le dire?
Parce qu'il y a des gens qui ont peut-être pensé que parce que tu défends une cause commune, tu es d'accord avec tout ce que disent d'autres personnes. Mais c'est pas ça, l'être humain. Et c'est justement, si tu veux, moi, et pour le coup, si tu veux, c'est là où je fais un lien avec l'éducation. C'est justement ce que je ne veux pas qu'il arrive à ma fille. Qu'un jour, on lui dise, mais tu dois penser comme ça et c'est tout. Tu vois, je veux qu'elle soit capable de dire à quelqu'un, écoute, je suis partiellement d'accord avec ce que tu as dit, et je pense qu'on a un niveau d'accord suffisant pour travailler ensemble. Par exemple, tu vois. Mais le fait d'avoir des raisonnements comme ça à dire, soit tu es 100% d'accord avec moi, soit tu es contre moi, j'ai envie de te dire, je vais citer Obi-Wan Kenobi, quoi. Il n'y a que les Sith pour être aussi absolu.
C'est très... T'as créé ce podcast,
oui.
Qui te permet, je pense, enfin d'après ce que tu me dis, de te construire toi aussi, tout en te disant que bah, c'est une plateforme de comment dire, d'échange d'idées, de partage d'idées aussi, de partage.
Ouais.
Et aujourd'hui, c'est ton travail alors ?
Alors non, aujourd'hui je suis en reconversion encore. Donc le podcast aujourd'hui, c'est un, moi mon projet de podcast, donc Papatriarca, c'est quelque chose auquel je tiens. Il est monétisé grâce à un hébergeur exceptionnel qui s'appelle Acast, que j'ai rencontré grâce à un podcasteur qui s'appelle Fabrice Ferrand. Non, il est monétisé, mais en fait le seul but, c'est qu'il s'autofinance. Voilà. Donc aujourd'hui, le podcast s'autofinance. Donc ça me va, c'est-à-dire que je rentre dans mes frais, je ne dépense plus d'argent pour le podcast. Et à côté de ça, moi, le podcast, il est militant engagé. Hein. C'est vraiment un acte militant. Et à côté de ça, ce que je souhaite aussi mettre en place, ce sont des ateliers gratuits. J'en ai créé un, donc, que j'ai pu tester cet été, oui, qui a rencontré un franc succès, où je mets en fait à disposition gratuitement des compétences, en tout cas l'acquisition de compétences d'accompagnement de l'humain. Donc le premier atelier, c'est écoute active et énergie. Voilà, c'est 15 ans d'expérience et un master que je mets gratuit à dispo. Ça, c'est un projet que j'ai vraiment, parce que je pense que ce sont des compétences humaines et sociales qui devraient d'ailleurs être enseignées à l'école. Mais on va pas partir sur l'école.
Non, on est parti pour une heure de plus. Voilà. J'aimerais bien te réinviter pour parler d'instruction en famille, parce que tu l'as glissé là tout à l'heure, l'air de rien, mais c'est un vrai sujet sociétal actuel, en plus, qui est en plein, qui est en plein dans l'actualité politique actuelle.
Ah, et puis là, j'ai avec une expertise.
Sur laquelle tu es.
Donc, tu pourras me réinviter, ouais, si tu veux. Et je sais plus pour, ouais, voilà. Donc, le projet Papatriarca, c'est vraiment un projet militant engagé. Ensuite, à côté de ça, pour être transparent avec toi, je devais, au mois d'avril, commencer, en fait, j'avais des sous de côté pour prendre une franchise et pour devenir conseiller pour les TPE-PME en franchise. Et puis, il se trouve qu'il y a un truc qui s'est produit qu'on n'avait pas prévu. Un virus.
Voilà,
une pandémie, et on a été confinés. Et il se trouve que le confinement a fait beaucoup de mal aux ressources du foyer, et que donc c'était plus le moment d'investir l'argent que j'avais prévu, que je pense qu'en pleine pandémie, c'est pas le moment pour lancer une activité telle que celle-là. Et puis en fait, ce qui s'est produit aussi avec Papatriarca, c'est que je me suis rendu compte que j'avais des compétences, ça je le savais, mais qui pouvaient servir à autre chose. À autre chose comme objectif que faire gagner plus d'argent à des gens qui en gagnent déjà. Et là, je me suis dit, ok, donc je vais réfléchir à autre chose. Et j'ai aussi découvert, et là, c'est le moment où je balance un peu, tu vois, j'ai aussi découvert que sur les réseaux sociaux, il y avait clairement des gens mal intentionnés et qui accompagnent des gens, et notamment des parents qui sont un peu en détresse et qui arnaquent les gens, en fait. Et qui arnaquent clairement les gens, qui utilisent des méthodes bien connues de marketing et de manipulation, et qui arnaquent clairement les gens sur les réseaux par différents biais qui s'appellent coach, mais qui n'en sont pas du tout, en fait. Qui sont plutôt dans de la gouroutisation plutôt que dans de l'accompagnement de l'humain. Et donc, en fait, je me suis dit, tiens, bah écoute, je vais peut-être réfléchir à ça. Donc, je me suis lancé dans une certification en programmation neurolinguistique, en PNL, que je connaissais déjà parce que c'est un sujet qui m'intéresse, la PNL, depuis plusieurs années. Et je me suis dit, allez, je vais me certifier. Et puis, en discutant avec les gens, et notamment avec Marion Quirk, donc au mois de mai, je me posais la question sur la thérapie d'attachement intérieur, qui est très méconnue en France, très peu pratiquée. Et pour preuve qu'il n'y a pas de formation en France, que je dois faire la mienne en anglais. Et en fait, je me suis lancé dans une autre certification justement pour être thérapeute d'attachement intérieur. Et ayant moi-même eu une thérapie dans ce sens-là, et pour info, j'ai même rappelé mon ancienne psy pour savoir si c'était ça qu'elle avait fait. Et en fait, c'est bien ça qu'elle m'avait fait. Et elle m'a dit, mais...
Sans que tu le saches.
Sans que je le sache, mais c'est ça. C'est ça qui était fou. Et donc, c'est super intéressant parce que... L'idée, c'est vraiment, voilà, c'est se lancer dans une reconversion qui ait du sens pour moi, qui soit le plus accessible possible, et qui me permette de mener mon projet de vie. Donc voilà où moi j'en suis en termes de projet. Je devais avancer beaucoup plus vite sur le sujet, puisque mon activité devrait être lancée là, ça n'est pas le cas. Tout simplement parce que depuis le 2 octobre, j'ai eu un engagement politique sur le sujet de l'instruction en famille qui me prend énormément de temps. Mais c'est un autre sujet.
Je vous invite, si vous voulez voir tout ce que tu as pu produire d'une manière générale sur l'instruction en famille, mais c'est vrai qu'on j'aimerais bien qu'on en reparle parce qu'en vrai, je pense que c'est un vrai sujet. Moi, j'en avais parlé de façon un peu sous un angle un peu différent avec un invité. Je sais pas si tu avais écouté ce mec qui s'appelle Freddy, moi, qui m'avait
retourné. Oui, Freddy, oui. Oui.
Totalement, qui a l'air d'être d'ailleurs une figure de la commu des gens de l'instruction en famille, je savais pas, mais voilà, c'est. Je vous invite à aller voir, donc à aller écouter les. T'as fait notamment un épisode avec André Stern, c'est ça qui a très bien marqué.
Tu me disais. Ah ben André Stern, si tu veux parler, alors on parle pas spécialement d'instruction en famille, on parle de développement de l'enfant. Mmh. Mais André Stern, voilà, c'est il a 49 ans, il est jamais allé à l'école. Et je vous invite à écouter l'épisode. Mmh. Et à lire ses écrits aussi.
Je vous mettrai tous les liens dans les notes du podcast.
Mais on fera un podcast spécial dessus, si tu veux, tu auras plein de liens à mettre.
Ouais, grand plaisir. Je vais pas te zapper la dernière question que je pose d'habitude à tous mes invités, même si au final on n'a pas vraiment, enfin on a beaucoup parlé de toi, mais on n'a pas vraiment parlé de ton aventure de papa en tant que père, si tu veux. On a plus parlé de ton développement à toi, mais je trouve que l'épisode est de ce fait-là très intéressant et ça change un peu d'habitude. Mais si ta fille se retrouvait dans 10 ans à écouter ce podcast, qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire?
J'aurais envie de lui dire merci. Parce que... Ah putain, je suis gavé ému là. Attends, faut que je reprenne, faut que je me recentre un peu. J'aurais envie de lui dire merci parce que je suis pas sûr du tout que j'aurais fait ce chemin sans elle. Et je dis bien sans elle. Je sais qu'au tout début de l'aventure papatriarcat, j'ai tenu un propos disant que même si ma fille avait été un garçon, j'aurais cheminé. C'est potentiellement le cas, mais ça serait jamais passé aussi fort et aussi vite. Je pense que c'est juste mon ego, l'ego de mon esprit que je voulais flatter. La réalité, c'est que le fait d'avoir une petite fille dans ce monde-là, à cet instant-là, c'est ce qui a provoqué des changements extrêmement profonds en moi et qui me font beaucoup de bien et qui me permettent d'être aligné avec ce que je suis.
Merci de le dire. Je pense que c'est un vrai truc que je constate moi chez les parents de filles, enfin chez les pères de filles, plus que chez les pères de petits mecs, si tu veux. Parce que c'est une projection instantanée qui est « Ok, en fait, ma fille va grandir dans ce truc-là. Elle va devenir... Elle va devenir potentiellement une victime de viol, de meurtre aussi, parce que c'est un truc qui arrive aujourd'hui aux femmes en particulier. Quoi. Et je te rejoins vachement là-dessus.
Ouais, moi, j'aurais envie de lui dire merci parce que je sais pas où mènera cette aventure, j'en sais rien, mais en tout cas, ça me fait beaucoup de bien. C'est pas toujours facile, mais ça fait beaucoup de bien.
Merci beaucoup Cédric.
Merci à toi.
Je vais te laisser aller vivre ton 31 décembre tranquillement. C'était un épisode particulièrement long, mais je trouve particulièrement intéressant. Donc un grand merci à toi pour ce partage et tout ça. Et puis bah, je pense rendez-vous à bientôt pour un épisode de spécial instruction famille, si tu veux bien.
Avec grand plaisir.
T'as l'air d'être chaud.
Ah oui, c'est chaud. Ça prend beaucoup de temps, surtout. Ouais.
Ouais, j'imagine. Merci à toi. Et puis, encore une fois, si vous voulez écouter Cédric un peu plus longuement, en tout cas, l'écouter interviewer d'autres gens aussi, RDV dans les notes du podcast et puis sur le podcast Papatriarca, quoi.
Merci beaucoup, Fabrice.
Salut.
Salut.
Merci beaucoup pour votre écoute. Avant de nous quitter, si vous avez aimé ce podcast et cet épisode, merci de lui mettre un commentaire sur Apple Podcasts et 5 étoiles de préférence. C'est le meilleur moyen de le faire connaître. Vous vous rendez sur Apple Podcasts et vous cherchez Histoire de Daron directement dans l'appli ou sur votre ordinateur. Merci à vous et rendez-vous tous les 1er et 3e lundi de chaque mois à partir de 6h du matin pour un nouvel épisode d'Histoire de Daron. Un grand merci à vous pour votre écoute.